Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Adrien Cahuzac. Adrien, bonjour.
Bonjour.
Lovecraft.
Nous Merci. Sommes avec Natacha Forel.
Salut.
Nous sommes avec Flavie Briand. Nous sommes avec Pierre Rosier.
Je suis le dieu du week-end défoncé qui n'en peut plus, qui veut dormir.
Tu es le troisième poumon de Jack. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de cultisme, d'occultisme, de cultiste et de Cthulhu. Encore.
Faites un jet de San.
Faites un jet de San. Ça fait longtemps qu'il y a un sujet entre nous, Adrien,
ouais.
qui court.
Ça fait, je pense, 3 ans à peu près.
À force de... Au moins trois ans. Hein.
Plus que ça.
Plus que ça, ouais. Plus que ça.
Titre.
C'est depuis, en fait, le. C'est, tu as une idée, Natacha, de l'époque ?
Je ne sais pas c'est quoi la date, mais je sais qu'il y a eu une semaine de sens qui a démarré par une soirée Cthulhu avec 2 tables différentes. Celle où nous, on était avec les Tibétains à Carcosa, là. Et celle où tu avais fait ton scénar, Flavie, de la cabane dans les bois.
Ah, qu'est-ce qu'il était bien, celui-là.
Et on s'est rendu compte, à force de se présenter nos scénars de Cthulhu, à Adrien, Cédric, Flavie, etc. Je ne sais plus qui est-ce qui nous a présenté du Cthulhu, mais il y a eu pas mal de monde. Qu'on avait les uns, les autres, des routines, parfois
nos recettes
un peu
de cuisine.
Voilà, des recettes de cuisine pour préparer, pour débiter en fait, des kilos de scénarios de Cthulhu. Et c'est celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Alors, on a remis ce podcast bien des fois à plus tard, parce qu'on aurait rêvé que Cédric soit parmi nous pour en parler.
À la place, on a un rouleau de scotch qui sera l'incarnation de Cédric à la table. Donc, de temps en temps, je mettrai le micro devant lui. Et si vous entendez des choses, c'est qu'il vous parle, d'accord ?
C'est que vous avez raté votre jeu de San.
Très bien. Donc. Alors
attends, le rouleau de scotch, il fait plutôt ce bruit-là.
Bienvenue sur Cellule ASMR.
Non, mais un jour, on le fera le podcast ASMR, hein, vraiment.
Je sais. Je sais que tôt ou tard, j'y aurai le droit dans mes petits écouteurs. Donc, alors. Quelles sont tes recettes, Adrien ? Est-ce que tu veux commencer ?
Alors, avant de commencer par les recettes, moi, ce dont j'aimerais parler, c'est pourquoi moi, j'ai cette relation avec Cthulhu, et je pense pourquoi vous aussi, et pourquoi on va en venir à ces recettes-là en particulier.
Ah.
En fait, je découvre le jeu de rôle, j'ai 11 ou 12 ans.
Adrien.
Et on commence par des jeux de rôle
oui,
un peu
continuez.
À la con. Un peu à la con, des trucs improvisés avec des fiches de perso qu'on trouve, il n'y a pas de système de jeu. Et les premiers jeux dont on a le bouquin, c'est Warhammer et Cthulhu. Et INS.
Et Donjons et Dragons.
Non.
INS à 12 ans, bah bravo.
Non, ça c'est quand j'ai commencé. INS, on avait 15 ou 16 ans. Cthulhu, c'était à peu près dans les mêmes eaux, peut-être un peu avant. Ouais, dans les 13, 14, 15 ans. Et donc, on commence à jouer à Cthulhu, et Cthulhu, tel que c'était présenté dans le bouquin, tel que c'est fait par mon MJ, c'est un jeu où on meurt très souvent. Et puis peu après, ben, je découvre Lovecraft aussi chez un oncle qui a des bouquins, donc je pique tous ses bouquins, je les lis. Et donc en fait, pour moi, Cthulhu, avant tout, c'est Lovecraft aussi. Mmh. Et donc, c'est quoi ? C'est des nouvelles. C'est des nouvelles, c'est des histoires où à la fin, le personnage meurt ou devient fou. Et c'est aussi ce que moi j'ai vécu dans quasiment toutes mes parties. Donc le Cthulhu en campagne... C'est un truc que je n'ai fait pour la première fois avec les 5 supplices.
C'est vrai ?
Ouais.
Tu rigoles ?
Pareil.
Tu rigoles,
non.
Fly ?
Non, je rigole pas, moi.
Alors, en tant que joueur, t'as jamais fait de campagne ?
En tant que joueur, j'ai fait...
De ouf !
En tant que joueur, j'ai fait des séries de scénarios, mais où en général, mon personnage durait 2 parties, ou au maximum. Et du coup, je jouais son cousin... son frère, mais c'était des séries de one shot, tu vois, c'était un pote qui avait sa campagne, entre guillemets, mais la campagne c'était quoi ? C'était, on était les inspecteurs de police d'un village, et c'était genre le village de Buffy, quoi, il y avait toujours la merde par là, quoi. Et donc, il y avait des personnages qui ont été là pendant très longtemps, mais moi, mon expérience de Cthulhu, ça a toujours été du one shot, en tout cas, pensé pour être du one shot.
C'est intéressant, d'accord.
Et
Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ?
Que je plus souhaitais cette vision et que moi, j'ai jamais fait une campagne de Cthulhu. Ma plus longue partie, ça a été sur un scénar de partie.
D'accord.
Et c'était plus dû à des problèmes d'organisation qu'on ait fait une deuxième partie. Tu vois.
D'accord. Ouais.
Quant à moi, il m'est arrivé de survivre avec mon personnage, mais du coup, comme c'était, j'en avais fait une journaliste. Et mon but, c'était de la pousser de one shot à one shot. À chaque fois, en gros, elle faisait une recherche sur c'était une journaliste de l'occultiste de l'occultisme, et donc en gros elle faisait des recherches et au bout d'un trois scénars elle était morte, mais à chaque fois c'était des one shot en fait qui lui ramenaient son voilà de son article.
C'est génial de comparer en fait la structure de la nouvelle à en fait la structure du scénario
et,
du coup,
et
de
ça a été accentué par le fait que Adrien. En cinquième la seule prof de français dont je me rappelle autre que Natacha m'a fait lire comme livre qui était au programme
il m'a pas eu comme prof hein, on n'est pas le couple Macron
mais ça, je...
m'a fait lire comme livre le cas de Dino Buzzati qui moi m'a énormément marqué.
Ah, est-ce que tu pourrais nous parler du cas de Dino Buzzati ?
Alors, c'est un recueil de nouvelles donc de Dino Buzzati, qui est un auteur italien, qui l'écrit dans les années 60, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est des nouvelles fantastiques, contemporaines, entre guillemets, contrairement on va dire, aux nouvelles fantastiques précédentes qu'on pouvait avoir lire avec du Maupassant. Enfin, moi, en tout cas, c'est les premières que je lis qui sont vraiment contemporaines. Qui mêlent à la fois des questions existentielles de la politique et avec des sujets assez divers d'un homme qui est pourchassé par un monstre qui s'appelle le K, avec un homme qui trouve toujours un manteau qu'il achète au puce et chaque fois qu'il met la main dans la poche il en tire de l'argent mais en fait il se rend compte que chaque fois qu'il fait ça il y a des catastrophes dans le monde
c'est des braquages c'est-à-dire que l'argent en fait
l'argent
qu'il
tire de
sa poche
il vient de
concrètement
quelque part.
Vient d'un crime ou de quelque chose
c'est l'histoire d'un jeune homme qui participe à des chasses aux vieux et au fur et à mesure de la nouvelle à la fin il finit vieux et c'est lui qu'on vient chasser. C'est l'histoire d'un gamin qui se fait maltraiter au parc et à la fin, sa mère vient le chercher et l'appelle « Viens Adolphe, rentrons à la maison ». Donc c'est plein de nouvelles qui sont extrêmement percutantes. Et,
avec des chutes.
Chutes fortes. Et en gros, cette structure narrative, moi, me touche énormément à ce moment-là. Et donc je découvre Lovecraft, je découvre Philip K. Dick qui écrit énormément de nouvelles qui suivent aussi ce principe-là. Et donc moi, cette structure narrative-là, je l'ai énormément en tête. Et parmi tous les jeux, le jeu qui s'y prête le plus, c'est Cthulhu, en fait.
Ouais.
Parce que j'en ai déjà fait l'expérience, mais aussi parce que la proposition de l'univers du jeu, surtout tel qu'il est décrit dans la BD dont on parle tout le temps, c'est ça. C'est un truc qui est forcément court, qui est forcément avec une chute abrupte.
Des persos qui sont des consommables, donc en fait on va pas retrouver le même personnage récurrent qui va traverser nouvelle après nouvelle, donc ça c'est effectivement ça colle bien,
c'est rigolo parce que moi j'étais fan de Colomba de Prosper Mérimée qui a écrit énormément si je dis pas de bêtises, qui a écrit énormément de nouvelles dont énormément de nouvelles fantastiques en fait, et j'ai retrouvé ça aussi
notamment, ouais.
J'ai retrouvé ça dans...
Ça reste des formats de romans, de livres que j'adore lire. Mélanie Fazi écrit des nouvelles géniales.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, ouais, bien sûr.
Moi, c'est les contes de la Bécasse et le travail de Maupassant, d'une manière générale, qui m'a ouvert. J'ai la même histoire. C'est hallucinant.
Ouais,
les références. Tu disais que tu n'avais pas joué à Donjons et Dragons. Moi non plus, tu vois, par exemple.
Je pense que beaucoup
marrant,
de gens...
Marrant, ça aussi.
Je me corrige, parce que sinon, je sens que je vais me faire allumer. Le Passe-Muraille, c'est Marcel Aimé. Et Mérimée, c'est la Vénus d'Ile, pardon.
D'accord.
La Vénus d'Ile, mon Dieu, qui m'a fait froid dans le dos.
Et donc, j'en suis là. Et donc, je commence à créer des one-shots de Cthulhu, parce que pour moi, Cthulhu, c'est ça, quoi. C'est on crée des one-shots, on sait qu'on va bien rigoler parce que comment on va mourir, c'est quoi les méchants, c'est quoi les... Une aussi des choses très importantes dans ma relation avec Cthulhu, c'est que le premier scénario que j'ai joué, on n'a pas vu un monstre, on s'est tué entre nous. Les personnages sont tués entre nous de paranoïa, en fait. C'est-à-dire, on croyait entendre des trucs, on rentre dans une pièce, on croit qu'il y a un monstre parce qu'elle est plongée dans l'obscurité, on tire, c'est un autre PJ, des choses comme ça. Et donc, en fait, pour moi, Cthulhu, il y a aussi un élément très important qui est des relations entre personnages qui ne sont pas des aventuriers rencontrés dans une taverne, quoi. Et ces relations entre personnages peuvent être à l'origine de conflits ou de peurs ou d'envie de se protéger ou de choses comme ça qui se prêtent très bien, en fait, au fait d'avoir des pré-tirés liés au one-shot, notamment.
Fly, tu voulais ajouter quelque
chose ? Moi, mon premier scénario de Cthulhu, ça arrive à un moment bien spécial dans ma vie. C'est à la base, je suis quelqu'un qui regardait énormément de films d'horreur. Et au moment où je fais mon premier scénario de Cthulhu, en fait, j'ai regardé un film qui fait 28 jours plus tard, qui fait que je ne peux plus mater de films d'horreur. Là. C'est fini. À ce moment-là. Et à ce moment-là, je joue à un scénario qui s'appelle La Maison de l'Horreur, je crois.
Non, non, non. C'est La Maison qui mange les gens, c'est ça ?
Ouais.
C'est Crowley, l'expérience du docteur Crowley, ouais. Je crois.
Et j'ai peur. J'ai peur pendant que je joue. J'ai
la maison Kermit ou un truc comme ça, c'est pas ça son...
Non, c'est des voyageurs qui débarquent, qui tombent en panne devant une baraque, qui rentrent, et puis ils arrivent en plein milieu d'une réunion de famille dysfonctionnelle et dans lequel le grand-père est en train de crever. Juste avant de mourir, il voit quelque chose passer dans la cheminée et à partir de là, c'est un runaway, c'est-à-dire que toute la maison commence à s'animer, le plancher commence à digérer tes souliers, t'as les clous qui volent parce que sous la pression faite des murs, parce que la maison respire, t'as les clous qui volent, c'est un scénario mais qui tient en quelques pages, 6 pages peut-être.
Mais j'ai eu très très peur à ce scénario et en même temps j'ai énormément ri.
Ri, ouais. Il y avait les
deux. J'ai adoré ce truc. Je pense que j'essaye de retrouver ça un peu dans mes prep moi.
Et donc voilà, j'en suis là et je commence à créer des scénarios de Cthulhu. Et du coup c'est tout ça qu'il va avoir en tête parce qu'en gros les recettes que moi je vais donner ou que je vais évoquer, c'est que autour de cette thématique-là. J'explore pas Cthulhu tel que tout le monde le fait, j'explore mon Cthulhu. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, et donc en cela, quand on va en parler, nos structures de scénario vont sans doute différer. Typiquement, moi, mon scénar de Cthulhu, c'est à 98% des huis clos. Des huis clos à l'échelle d'une maison ou d'un domaine ou de quelque chose de très petit. Éventuellement d'un village isolé.
T'es toujours en train de te poser la question comment je vais enfermer mes joueurs quelque part.
Ouais,
est-ce qu'ils vont tomber en panne? Est-ce qu'il va faire froid?
C'est toujours une question de base. Ouais.
Il y a ça aussi dans Agatha Christie.
Bien sûr.
Si tu nies les Hercule Poirot d'Agatha Christie, toujours. C'est fascinant comme les meilleurs. Allez, je me risque à une appréciation subjective. Les meilleurs Agatha Christie, c'est l'Orient Express dans lequel ils sont enfermés dans un train, dans lequel il fait froid, ils peuvent pas sortir, etc. Hercule Poirot est toujours enfermé avec les potentiels meurtriers. Dans Mort sur le Nil, c'est un bateau qui sert de lieu. Ils peuvent rentrer et sortir, mais ça reste du huis clos, Natacha.
Roger Ackroyd est un peu comme ça aussi. Il
est très spécial, Roger Ackroyd.
Ouais, mais en fait, dans le sens où les personnages ne sont pas enfermés, ils peuvent aller et venir. Par contre, ça reste tout reste dans le village et autour de la baraque de Roger Ackroyd.
Pour te dire que c'est presque caricatural, t'as Mort dans un train, qui est l'Orient Express,
ouais.
Mort dans un bateau,
oui, non, mais c'est sûr.
Et t'as le crime de l'avion ou je sais plus quoi.
Moi, je trouve ça très intéressant aussi. Hein. Je trouve, enfin, effectivement.
Et après, ce sera mort dans un zeppelin, mort dans une citerne où tout le monde est enfermé. Enfin, tu vois, il y a un côté comme ça. Flavie.
Je vais me permettre de parler pour Cédric parce que j'ai quand même pas mal joué avec lui. Alors, je peux pas dire pour il y a quelques années, mais actuellement, quand il écrit un scénar de Cthulhu... Oui, Cédric, je sais. Tu es là sous forme de scotch, mais je ferai résonner ta voix.
Tu pourrais en boire du scotch.
En fait, Cédric, actuellement, il ne fait plus du tout de fiction à la Lovecraft. Il trouve en fait des faits, notamment des faits divers qui se sont passés. Et il se renseigne à fond dessus et il les fait jouer. Alors, il a eu la maison aux États-Unis, là où j'ai joué
avec les enfants.
Amityville.
Amityville, auquel j'ai joué. Il nous a fait aussi jouer un scénar où, en gros, les femmes utilisaient de l'uranium. On mettait de l'uranium partout, y compris dans les produits esthétiques et tout, parce qu'elle se trouvait belle quand elle faisait ça et
brillait,
tout.
Ouais,
et il a fait tout un scénar autour de ça qui est absolument terrifiant. Il a fait un scénar dans les années 70, au moment de la révolte dans les ghettos aux États-Unis. Enfin,
il y a toujours une origine historique.
Exactement, voire même des fois, on ne joue que... Il y a certains scénars réels. Que j'ai faits, ça faisait froid dans le dos et c'était que du réel. Hein.
C'est des faits réels, ouais. Il nous fait participer à des faits réels, mais il y rajoute quand même un peu de Cthulhu. Parce que Cédric, il est un peu comme moi, il aime bien regarder dans la table aléatoire des monstres, lancer le dé avant. Tu vois, c'est un peu comme une contrainte à l'Oulipo, tu sais. Tu lances le dé, tu regardes dans la table, tu dis « Ok, je vais faire un scénario autour de cette entité du mythe-là. » Tu vois, ça m'arrive aussi. Cédric, il est un petit peu comme ça aussi. Après, ça c'est clair, hein, le coup du fait divers, c'est quelque chose.
Ouais.
Je raconterai après moi aussi.
Ouais, bien sûr.
Mais
bien sûr,
très proche d'Adrien, ceci dit. Vas-y, Adrien.
Donc, c'est des huis clos. Et donc, à partir de là, moi, l'autre élément qui est important, c'est que mon Cthulhu, c'est toujours un Cthulhu bac à sable. Quasiment. J'ai pas de... Ils vont trouver telle piste qui va les mener là, et tel PNJ va pouvoir leur dire ça, ou alors ils peuvent aller là-bas, etc. Je pense pas du tout mon scénario comme ça. Je pense mon scénario comme un setup initial, des PNJ éventuellement, les forces occultes en présence, leur plan, et ensuite, ce que je vais éventuellement préparer, c'est une liste d'événements. Genre... Là, typiquement, pour ce week-end-là, j'avais préparé un scénar. On peut l'utiliser comme exemple, en fait. Hein. C'est pas très grave. Il y a un peu de boulot. Au pire, les PNJ, on peut toujours les récupérer. Enfin, les personnages qui avaient été créés pour l'occasion, toujours les récupérer, c'est ça qui a pris le plus de boulot. Le reste, c'est un plan, quelques événements et un concept. Donc le concept, ça a été discussion avec Fabien lors du dernier week-end ici, en retour dans la voiture. Et je ne sais même plus comment ça a commencé, mais en gros, le concept, c'est des humains sont capturés de façon pas évidente, enfin, c'est pas de façon claire, mais ils sont en gros sous la tutelle de Migo, qui veulent les utiliser comme sujet d'une expérience scientifique. Et cette expérience scientifique, c'est que les Migo ne savent pas ce que c'est que l'art, et ils veulent étudier l'art en étudiant la réaction d'humains à l'art.
Xox et Oxo. Le livre pour enfants que nous ont offert à Fabien et Alice, c'est un peu ça. C'est des extraterrestres qui étudient l'art humain.
Et donc, le setup, bah, c'est des humains liés au milieu de l'art. Donc, c'est une artiste, son mari qui est décorateur d'intérieur, et puis leur frère qui est critique d'art dans un grand magazine, et sa femme qui est dilettante, qui a plein de thunes, et voilà. Plus leurs enfants, un qui joue de la musique, l'autre qui étudie la littérature. Et ils sont invités par un riche mécène à venir passer une résidence d'été dans sa grande demeure. Le mari devra s'occuper de la décoration intérieure et la femme, elle devra réaliser une œuvre de commande pour ça. Ça, c'est, on va dire, le pitch initial, sachant que, bien sûr, le mec en question est esclave des Migos et donc ils vont débarquer là-dedans. Quand ils arrivent, en petite visite des lieux, première journée tranquille, les personnages se découvrent, les différents personnages, sachant que là, il y avait une petite douzaine de personnages. Donc, au début, je vais dire aux joueurs, bah, lequel vous voulez jouer, quoi. Ils sont tous jouables, sachant que les autres, c'est si jamais vous mourrez, quoi. Il y en a un paquet, quoi. Comme ça, je suis tranquille. Dedans, il y en a un que j'aurais réservé pour un joueur à qui j'aurais dit, bon, toi, tu vas jouer un esclave des Migos aussi, hein. Tu vas être là pour manipuler un peu. Et ensuite,
il y a souvent un traître, en effet.
Pas tout le temps. Si c'est systématique, ça perd son charme. Là, je l'avais pensé, mais ça, c'est un esclave. C'est pas non plus un traître absolu.
Parce que j'aime bien mettre un traître de temps en temps aussi. Moi.
Ouais, ça fait du bien. Ouais. Et donc ensuite... Et donc ensuite, moi, j'ai mon plan de la maison avec tous les lieux qui sont présents. Et ensuite, le deuxième jour, quand le commanditaire s'en va... Il va les laisser tranquilles le temps de leurs travaux. Il leur dit, il y a une livraison de matériel, de quelques œuvres que j'ai achetées récemment, que j'aimerais vous utiliser pour décorer la maison. Et quand ils s'en vont, la livraison arrive. Et là, première surprise, on les a préparées. Il y a une liste d'œuvres qui arrivent. La Joconde, la Vénus Anadyomène, des obélisques mayas, l'urinoir de Duchamp alors qu'on joue en 1920, la fontaine de Duchamp alors qu'on joue en 1920. Donc il y a une pléthore d'œuvres qui sont complètement improbables à arriver ici, qui débarquent, avec certaines qui viennent du futur, certaines qui viennent du passé. Bon voilà, et donc ils vont se retrouver à première interrogation, première confrontation à l'étrange pour les personnages. Avec bien sûr, a priori, ils ont un boulot, ils sont là pour venir pour décorer, etc. Et puis ensuite, il y a une escalade dans l'étrange qui est que les Migos, de ce que j'ai en tête, ont une idée de ce. Ils savent qu'est-ce qui est ou non de l'art humain. Une fois que ça a été réalisé, ils peuvent dire ok, il y a beaucoup d'humains qui sont dans un musée, a priori, c'est de l'art. Donc c'est comme ça qu'ils ont été récupérer des trucs. Mais ensuite, eux, pour pouvoir se dire notre modèle est valide, ils vont fabriquer des œuvres qu'ils pensent être des œuvres d'art, les soumettre aux humains. Et voir comment les humains réagissent à ces œuvres d'art.
Exactement comme du deep learning, en fait.
C'est
un
ça,
petit peu.
Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, c'était, ben, le premier matin, il y a une œuvre qui a disparu, et à la place, ils ont mis leur représentation. Par exemple, au lieu de, le radeau de la Méduse, eh ben, il y a une planche de bois avec un tas de cadavres posés dessus. Des trucs comme ça, quoi. Et au fur et à mesure, ça va monter dans l'absurde, dans le gore, dans l'horreur, sachant que en plus, bah, pendant la nuit, les Migos se déplacent, donc vont laisser des traces, vont faire du bruit. Il y a des souterrains qui mènent à leur caverne. Donc, et après, là, c'est bah, que vont faire les humains, quoi. Est-ce qu'ils vont trouver les Migos, les suivre, les affronter et mourir, trouver leur base, comprendre leur plan, jouer le jeu. Ce que j'avais prévu, c'est que dans un tunnel, il y a un humain d'une précédente expérience qui est toujours planqué. Et qui peut leur raconter des trucs, mais le mec est à moitié fou. Enfin voilà. Et donc, moi, j'ai ce setup avec cette liste d'événements qui vont avoir lieu. Et après, ben, je sais pas quoi. On voit comment ça se passe, comment les joueurs réagissent. Je vais mettre un peu de violence, quelques trucs comme ça, et c'est parti. Je sais pas où ça va nous mener.
Non, ok, excellent exemple. Ok, très bien. Donc là, elle est où la chute côté nouvelle et tout ça? Est-ce que tu vois où est-ce qu'il y a une chute? Est-ce que
non, je l'anticipe pas. Non, la chute côté nouvelle, c'est que ça finit à la fin de la partie, quoi. Soit ils sont tous morts, soit quelques-uns s'en sont sortis. Je sais pas comment, mais
ah d'accord. Donc ça veut dire que tes scénarios n'ont pas toujours non plus une petite chute, un petit
non,
de
pas
fin,
forcément,
twist,
non,
un petit forcément, un petit twist de fin.
Ils ont en général un twist. Tu vois, là, le twist, c'est il y a des œuvres d'art et il va y avoir des versions corrompues qui arrivent. Il y avait un scénar que je vous avais fait jouer où le twist, ça arrivait. Dans le premier tiers du jeu, c'est une nuit les Migos. À nouveau les Migos.
Ah bah les Migos, c'est ton truc, hein. Bah, c'est ça et les Shoggoths.
Non, c'est la deuxième fois, quoi.
Tu aimes bien me mettre les Shoggoths quand même. Me foutre les Shoggoths.
Ouais.
Les Migos. Bon.
Et donc, les profonds. Ouais. C'est un petit profond dans l'eau.
Ouais. Et donc, dans l'autre scénario avec les Migos, ils vous échangez les cerveaux.
J'entends
entre deux groupes de PJ.
Oh.
Et donc là,
scénario,
le truc, c'était les fiches de perso de Cthulhu sont partagées entre une partie en haut où il y a les caracs. Et les blessures, les points de vie, etc. Et en dessous, les compétences. Et moi, je suis parti du principe que les compétences, c'est du domaine de l'intellect, et donc c'est dans le cerveau, et tout le reste, c'est du domaine du corps. Et donc, je me suis dit, bah, c'est génial, on coupe au milieu, on coupe sur deux feuilles de perso,
tu
on
pas
échange.
Fait ce scénario-là, Fly?
Non. Par contre, j'ai fait le concombre qui se fait branler.
Non, mais ça,
avec
c'est pas du Cthulhu, ça. C'est pas du Cthulhu, ça. On va pas en parler cette fois-ci. Et donc, ce scénario-là, le truc, c'était on échangeait les deux moitiés de feuilles de perso, et puis après, c'est parti, quoi. Je sais pas du tout où ça allait mener, et il y avait ce tricks, quoi.
Ouais.
Je pense pas ces twists comme des twists finaux. Le problème du twist en twist final, c'est que ça t'oblige à tordre toute l'histoire pour y arriver. C'est ultra dirigiste
dit Natacha.
Et ça rend la notion d'exploration de la part des joueurs très différente.
Par contre, le scénario est construit sur une petite idée, un petit truc, une petite astuce.
Ouais,
voilà.
Souvent, ouais. Enfin, même tout le temps. J'ai tout le temps besoin d'avoir une idée un peu originale, un truc. C'est pas juste des profonds, c'est pas juste des zombies, c'est pas juste un rituel. C'est quelque chose qui est un peu plus insidieux que ça.
D'accord, ouais. C'est génial. Alors, je peux présenter mon...
Bah, vas-y, vas-y. Allez.
Donc, moi, en fait, j'ai une autre expérience de Cthulhu. Les meilleurs Cthulhu que j'ai fait, c'était... je m'en foutais que ce soit dirigiste, ce soit le côté nouvelle et tout. Tu vois, j'avais même pas fait vraiment le lien entre le one-shot et la nouvelle. On avait peut-être déjà dû en parler ensemble. Ça me dit comme quelque chose comme ça, mais
ouais.
Tu vois, j'avais pas... c'était pas conscient, quoi. Et alors, donc, moi, le truc, c'est les aides de jeu. Ah, alors ça... compulser des aides de jeu, lire le journal, aller chercher dans des photos des indices, lire les carnets laissés par des explorateurs et trucs comme ça, je kiffe ça. Et donc comme on me demandait...
En tant que joueur. D'accord, ok.
Et donc comme on me demandait souvent de préparer un scénario de Cthulhu, franchement, hein, le jour pour le soir, et que je pouvais pas fournir des aides de jeu, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais sur Internet. J'allais chercher des pages Wikipédia, des textes bizarres, des trucs. En fait, j'avais une espèce de thématique où, pareil que toi, j'aimais bien enfermer mes joueurs, donc je choisissais un lieu. Et après, j'allais chercher des plans sur le net, des plans de bateaux. J'allais chercher... Oui, j'ai vu. Alors toi, tu l'as fait. Moi, j'allais tout chercher sur le net. De fait, mon classeur de scénario de Cthulhu, si on va voir, c'est des photos prises sur Internet, etc., découpées. Je numérotais mes aides de jeu et tout pour faire comme si j'étais un professionnel. J'entends pas. Qu'est-ce que tu dis, Fabien?
Je vais vous montrer mon cahier.
J'ai des plans pris dans Cassius Belli.
Et donc, du coup, moi, mon vrai plaisir, c'était ça. C'est parce que je trouve que l'horreur vient beaucoup par l'image, vient beaucoup par le matériel dans Cthulhu. Je trouve que le matériel joue un rôle. Et on l'a bien vu dans Les 5 Supplices, comme j'étais attaché dans mes débriefs au matériel, aux cartes, aux articles, aux journaux.
Ouais.
Donc, moi, ça me poussait à faire un peu comme Seth, du coup. Aller chercher, parce que du coup, j'allais sur Internet, aller chercher des histoires, des choses historiques. Par exemple, les disparus du col de Diatlov. Ça, je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est un scénario.
L'avion qui s'est écrasé en Argentine.
Non, c'est pas celle-là.
Une équipe de rugby.
Alors, la fois où on me l'a raconté, j'ai eu froid dans le dos. Alors, je vais essayer de la raconter aussi bien que Ben nous l'avait raconté.
C'est pas possible, tu n'y arriveras pas.
Non, j'y arriverai pas.
Tellement bon conteur.
Ouais, c'est en Russie. Un groupe de jeunes étudiants décide d'aller faire une randonnée. Histoire vraie. Ils vont faire une randonnée pour fêter la fin de leur année.
Avec des professeurs.
Oui. Ils ont l'habitude de randonner.
Oui, ce sont des professionnels.
De la randonnée. Ils avancent, mais les conditions se dégradent assez rapidement. Il y a une partie du groupe qui décide de rentrer.
Il y en a qui se blessent, je crois. Ils se blessent une patte et ils décident de rentrer.
Mais ils sont quand même largement... C'est encore tout à fait tenable et ils décident de continuer quand même la rando. Et on n'a plus de nouvelles d'eux.
Voilà.
Des randonneurs.
À un moment donné, ils arrivent non loin du col de Dyatlov. Et donc, il n'y a plus de nouvelles. Quoi. Donc, au bout de 7 jours, on envoie en fait, les autorités sur place pour déterminer ce qui s'est passé. Et donc, ils arrivent sur place et ce qu'ils trouvent, c'est une tente éventrée avec des vêtements distribués dans la montagne, des vêtements divers, des chaussettes roses, des culottes, des trucs complètement le bordel. Quelqu'un semble s'être extrait de sa tente, mais on ne sait pas pourquoi. Les autres l'ont peut-être poursuivi, mais on ne sait pas. Les groupes se sont divisés, on a des traces de pas, on arrive à peu près...
On a une trace de feu.
Mais le scénario... Alors,
puis surtout, la nuit où ils ont disparu, au-dessus du col de Dyatlov, des lumières bizarres ont été vues.
Le truc, c'est qu'en fait, on a deux rapports d'enquête. On a deux rapports d'enquête et donc du coup on suit la trace des disparus du col de Dyatlov à travers deux enquêtes distinctes, les premiers gars qui viennent explorer les lieux et de la police je crois, et donc du coup il y a toute une espèce de jeu aussi sur le fait que c'est que des témoignages d'enquêteurs qui sont susceptibles d'avoir menti pour des raisons gouvernementales et compagnie, donc vient se greffer là-dessus des théories du complot et la situation, c'est-à-dire que si on présente juste les faits. Et là, moi, je suis incapable de le faire. Honnêtement, il faudrait avoir travaillé la situation. Mais si on présente juste les faits en elles-mêmes, ça créerait ici, autour de la table, du maelstrom pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Parce qu'en vrai, c'est imbitable. Alors, il y a des hypothèses qui sont fournies. Aujourd'hui, on a à peu près une hypothèse solide. Fabien, tu veux prendre la
main. Un ours.
Il y a quand même deux éléments à ajouter. C'est que, d'une part, les corps, c'est pas évident de quoi ils sont morts. Ils sont morts de faits violents. Ils ont été frappés. Mais on ne sait pas si c'est effectivement un animal, si c'est des personnes, et s'ils ont été frappés, avec quoi ils ont été frappés.
On ne sait pas. La force a été décrite comme étant surhumaine. La force
Et l'autre truc qui est...
Attends, il y a des coups internes, il y a des blessures internes qui n'ont pas leur équivalent de matière externe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des coups internes au corps. Il y a des hémorragies internes qui sont équivalentes à des coups reçus, mais dont il n'y a absolument aucune trace sur les personnes.
Et l'autre truc...
Mais ça a été plus ou moins expliqué. Il y a des explications, hein.
Alors le truc qui vraiment devient complètement dingue, c'est que les corps ont un niveau de radioactivité qui est très supérieur, qui est particulièrement important.
Voilà, disparu.
Et alors,
du coup,
c'est quoi l'explication ? Parce que moi, je suis déjà.
Alors, une des explications pour les vêtements, c'est qu'en fait, ces gens sont partis très précipitamment du lieu sur lequel ils étaient.
Il n'y a pas besoin d'être enquêteur pour le savoir.
Et donc, du coup, qu'ils ont commencé en fait à ressentir des douleurs liées au froid, ou au contraire, qu'ils ont commencé à ressentir le froid. Et donc, ils se sont habillés de gens qui étaient morts de froid, des restes en fait des vêtements des gens qui. Par exemple, imagine, tu pars. Toi, tu pars avec une chaussette, un caleçon rose et une petite veste que tu t'es mise à l'arrache. Lui, il part avec uniquement ses bottes parce que il a eu le temps d'enfiler que ses bottes avant de sortir. Lui, il part avec son manteau uniquement et il dormait en pyjama, etc. Donc voilà, chacun part avec ses vêtements. Le truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y en a un qui meurt de froid. Qu'est-ce qu'ils font les autres ?
Donc on récupère les vêtements.
Ils récupèrent les vêtements. Et donc du coup, les vêtements vont se distribuer comme ça de façon aléatoire entre les différents disparus. Ça, c'est un premier élément pour comprendre.
Tout en fuyant toujours le.
En fuyant quoi ? On ne le sait pas. Et ça, c'est le grand mystère des disparus du col de Dyatlov, c'est qu'on ne sait pas. La raison des coups internes, c'est qu'en fait, il est possible que le froid sur les cadavres et continuer, en fait, la morsure du froid et continuer à faire évoluer certaines blessures qui pouvaient être bénignes et donc à les transformer en trucs monstrueux, alors qu'en réalité, à l'origine, elles n'étaient pas. Par exemple, il y a des hypothèses de ce genre-là. Il y a des chutes qui peuvent expliquer certaines blessures. Il y a le fait que le froid soit venu à un moment donné puis soit reparti. Il y en a un qui a été retrouvé en bas d'un trou. Mais franchement, les gars, il y a plein de choses à lire. Il y a une documentation. Rien que la page Wikipédia. Hein,
ouais, c'est ce que j'allais dire, la page Wikipédia, déjà, elle fait froid dans le dos.
À partir de là, tu peux reconstituer des images, des machins. L'histoire humaine, si on prend juste la chaîne YouTube d'Axolot, fourmille de lieux, de théâtres, d'incidents, de faits divers qui font des scénarios excellents.
Oui, moi, ça me faisait énormément penser, tel que vous le décriviez au début, ça me faisait énormément penser à.
Il manquait la langue d'une des victimes. Non, mais c'est hallucinant. Hein.
Tu disais quoi, du coup
À Picnic à Liars Rock, les disparus. Là, donc c'est, alors, il y a un film là-dessus que j'ai pas vu parce que déjà, avec le pitch, pareil, me fait trembler. Ouais.
Le film passe bien. Enfin, il est angoissant, mais il n'y a rien de graphique du tout. C'est...
Oui, mais moi, j'ai pas besoin que ce soit graphique pour que ça me fasse angoisser. Hein.
T'as un micro, vous avez un micro dédié si vous voulez parler, là, les adresses.
J'ai pas besoin que ce soit graphique pour que ça me fasse angoisser. Hein. C'est donc une classe ou une école de jeunes filles.
Une classe de jeunes filles qui ont 13-14 ans, par
ouais,
là.
Qui partent en pique-nique, en excursion.
Avec leur prof.
C'est quoi? C'est dans les années 20 ou 30 ou je sais plus. C'est
dans les années.
Pour l'instant, ça ressemble beaucoup au disparu du col de
Ouais, Dieu. Entre 1880. Et,
voilà.
1920,
et donc
il y a peut-être les Migos qui ont fait plein d'expériences.
En temps libre après le pique-nique, elle s'éparpille un peu dans la nature,
dans
la Liars Rock, et il y en a deux qui ne reviennent jamais. Et le film, ça raconte les autres jeunes filles qui partent à leur recherche et on les a jamais retrouvées, quoi. On sait pas du tout ce qu'elles sont devenues.
Et jamais aucune
trace. Je crois pas, non.
Et alors, ça me.
En rebondissant là-dessus, donc du coup,
Adrien.
Romaric, toi, tes scénars et Cédric aussi, vous basez sur des faits réels.
Alors oui,
beaucoup.
Moi, par nécessité.
Alors moi,
j'ai
une petite question.
Cédric, c'est vraiment par amour des personnages historiques.
Là, c'est un autre truc que je t'interromps juste du coup pour une petite
Adrien.
Question.
Ouais.
Comment tu ressens ça en comparaison au fait que tu avais critiqué le fait d'utiliser des photos de personnages qui avaient réellement existé dans les 5 supplices?
Eh bien, parce que moi, c'est pas publié. C'est
d'accord.
Pas professionnel, c'est personnel, donc
ça
ne regarde, si j'ose dire, que le cercle privé.
Ok.
Donc c'est et alors en plus les photos que j'utilisais en général, c'était pas des photos de personnes parce qu'en fait je trouve que ça colle assez mal. C'est plutôt des photos de lieux, des photos de décors, des
d'accord.
choses qui posent de l'ambiance. Donc bon, j'imagine que les tantes du col du disparu de Dyatlov n'attendront pas de procès pour droit à l'image. Tu vois, c'était des choses, des plans, tu vois, des plans de sous-marins. Il y a des tas de choses comme ça. Mais non, j'utilisais rarement des personnages, sauf quand c'était des personnages historiques, dont on avait les photos dans le manuel, etc. Parce que sinon, moi, je suis très mal à l'aise à l'idée d'utiliser des images de personnes. Fly, tu voulais intervenir ?
Oui, tu utilises des gens qui ont tout fait pour être célèbres, en fait. Tu mets jamais de photos
de
personnes qui n'étaient pas connues. En
fait. Non, jamais.
Alors, moi, je précise, et j'en profite pour faire la parenthèse, je suis là en tant que Watson, c'est-à-dire que j'ai jamais préparé de scénario de Cthulhu. Par contre, ça m'arrive assez régulièrement, quand Adrien prépare des scénarios, notamment de Cthulhu, d'être là pour
poser les questions
ou répondre, lui, aux interrogations qu'il se pose sur comment faire avancer le schmilblick. Et en tant que joueuse, par contre, j'aime beaucoup avoir des visuels, et notamment des visuels sur mes personnages, en particulier à Cthulhu. Donc du coup, là, ce que j'ai fait pour le scénario qu'il a préparé sur les Migos et l'art, notamment, j'ai trouvé des visuels pour les personnages. Et effectivement, ce ne sont que des personnages célèbres, des acteurs de série,
Marcus
des personnages
Poirot.
De série. Voilà.
Bon, là, c'est aidé aussi par le scénario d'Adrien qui postule le fait qu'on invite des artistes qui potentiellement sont connus.
Oui, mais ça aurait été n'importe quoi, ça aurait pu être valide aussi comme photo de personnage. C'est surtout des photos de personnages un peu d'époque, ce que vous voulez, Natacha.
En l'occurrence, avec une esthétique année 1920, quoi.
Par exemple, tu vois, je me souviens d'un scénario où j'ai utilisé des personnages, c'était Tesla et Edison, les deux photos d'illustration, parce que ça racontait la guerre des brevets entre Tesla et Edison, etc. Et entre le courant continu et alternatif, j'avais imaginé tout un tas de trucs. Ça, on retrouve ça aussi dans Le Prestige, le film de Nolan.
Ouais. C'est le livre de Christopher Priest.
D'accord, très bien. Enfin,
s'il te plaît.
Excuse-moi, je suis désolé, moi j'ai connu cette fiction à travers le film de Christopher Nolan. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'évoque ça. Et alors, dernier élément, puis après je passe la parole à Pierre, c'est l'importance du personnage historique, qu'on retrouve dans Vademecum d'ailleurs, c'est que j'adore placer une guest star dans mes scénarios de Cthulhu. Je sais pas pourquoi, c'est un kiff personnel. Cédric, il a son Victor Hugo. Moi, j'aimais bien, par exemple, on avait fait tout un scénario autour de Léon Blum. J'aime bien Edison, Tesla. Je kiffe mettre
un
personnage
avec l'histoire un peu,
mais un tout petit peu, tu vois.
Ouais.
Imaginez juste le fait d'imaginer juste qu'à un moment donné, on joue avec François Mitterrand. Ça me fait kiffer, je peux pas te dire pourquoi. C'est marrant.
Moi, c'est un truc.
Je crois aux forces cosmiques.
Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous typerai pas.
C'est vraiment, moi, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. Là, il y avait. Pour ce scénar, je voulais qu'il y ait un personnage qui le retrouve, un scientifique qui avait servi à l'expérience précédente, donc quelqu'un qui était plutôt de science. Et au contraire, j'ai été chercher un mec dont le nom n'était pas trop connu. parce que je préfère justement ne pas trop jouer avec l'histoire dans ce domaine-là.
C'est peut-être, ça peut te paraître contre-immersif.
Au départ, il avait envisagé que la recherche précédente d'Emigo était sur la logique et que les personnages retrouvent Wittgenstein.
Non, c'est le nom que toi, t'avais évoqué.
Moi, ça a été un de mes personnages récurrents de Cthulhu. Par exemple. J'ai joué Wittgenstein tant et tant dans des... J'ai même joué Wittgenstein dans une campagne. Enfin, bref. C'était trop cool.
Ça, c'est parce que toi, t'as du mal à créer des persos, j'ai l'impression.
Ah, ça, c'est tellement vrai. Ouais, tout à fait. En fait, je trouve que les personnages du réel sont beaucoup plus riches que je n'y arriverai jamais. Et donc, quelque part, à chaque fois, quand j'essaye de créer un perso, je pars toujours d'un canevas. D'ailleurs, quand je fais des Mii sur Nintendo, sur la Wii, je pars toujours de canevas préexistants parce que j'arrive pas à créer un personnage ex nihilo.
Je suis assez d'accord. Moi, ça m'arrive quand même de prendre des personnages de fiction aussi comme inspiration. Mais je suis assez d'accord. Pour mes créations de perso, je fais beaucoup ça aussi.
Un dernier élément, c'est que moi, je crée deux types de scénarios. Des scénarios dits plutôt pulp, que j'appelle plutôt pulp, donc aventure, façon Indiana Jones, voire Jurassic Park. Moi, j'ai fait des scénarios de Cthulhu, Indiana Jones, Jurassic Park et compagnie, avec donc les explorateurs, ils ont les casques, tu vois, à la King Kong. En fait, ouais. King Kong, pour moi, King Kong, c'est un scénario de Cthulhu. Et d'ailleurs, je suis frappé des parallèles qu'il y a entre King Kong et Cthulhu, tout simplement. C'est un monstre au milieu du Nil, au milieu de l'Atlantique. Il y a un côté... Il y a quelque chose du parallèle. Et donc, moi, je fais aussi des scénarios comme ça. Et là, j'ai encore d'autres méthodes de préparation. Et là, pour le coup, je m'inspire davantage d'œuvres de fiction. Pierre, de ton côté, comment tu prépares tes scénarios de Cthulhu?
Alors là, plein de choses, parce que Adrien... Tout au long de ta préparation, tu as déballé plein de choses, plein de concepts. Je ne sais pas si tu en as encore en réserve, mais déjà...
Il y a plein de choses dont je ne vais pas parler. Ouais.
D'accord. Déjà, il y a un truc qui m'a marqué dans tes expériences, c'est que tu as cité tes premières inspirations fantastiques et j'étais assez émerveillé que tu reparles de cette nouvelle avec le twist de fin. On découvre que l'enfant qui se fait maltraiter, c'est Hitler, parce que c'est une nouvelle qui m'a marqué aussi. Et du coup, je vois qu'on part tous de fonds plus ou moins communs. Mais il y a un truc... Et même pour les techniques de préparation, par exemple, Romaric, les aides de jeu, moi, c'est un truc que j'adore construire, mais plus pour le côté immersif que ça apporte, tu vois, dans la partie. Mmh. Et moi aussi, c'est beaucoup dans les délires de huis clos, ou du moins, s'il y a une liberté, c'est pour amener des personnages d'un huis clos à l'autre. Mais ce que je constate au travers de votre conversation, c'est que Cthulhu, c'est pour moi avant tout une ambiance, et une ambiance qui appelle différentes choses en fonction de qui la reçoit. Par exemple, quand on parle, Adrien, après, je ne te connais pas trop, mais j'ai cette impression qu'il y a toujours un petit délire un peu barré. Et quand tu m'as raconté cette histoire de Migo, j'ai retrouvé un peu de ton esprit dans ça. Et quand Romaric me parle de sa manière d'appréhender Cthulhu, c'est une autre dimension qu'il voit. Et pareil, pour moi, j'ai l'impression que le mythe de Cthulhu appelle différentes choses à celui qui le reçoit. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre jeu de rôle, en fait, dans n'importe quelle autre préparation de scénar.
Ouais, je suis complètement d'accord, effectivement. Tu mets le doigt sur quelque chose. Ouais.
C'est pour ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué dans un premier temps.
Alors toi, qu'est-ce qui te frappe, justement
Moi, je suis un gros fan des univers horrifiques, etc., alors que je ne suis pas très courageux en parallèle, mais par exemple...
Horrifique, tu vois. Nous, on est plus dans le fantastique, moi. Je suis plus dans le fantastique, je sais pas pour toi.
Mais je pense qu'il y a une côté horrifique dans le fantastique... Parce que dans le fantastique, il y a cet aspect, on ne sait pas trop, et tu vois, ce manque de connaissances amène à la peur. C'est d'ailleurs un thème récurrent de Lovecraft.
De Lovecraft, ouais.
Moi,
il vaut mieux pas trop en savoir, on va dire.
Ouais, il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer.
Là, pour le coup, c'est
moi,
vraiment,
c'est ouais. Dans la dimension Cthulhu. C'est une dimension que je tire de Silent Hill et que j'adore, c'est la notion d'horreur, mais imbriquée dans le quotidien, tu vois. L'horreur dans les choses banales. Et pour moi, Lovecraft, c'est plus la concrétisation plus violente de...
Ah, c'est génial, ça.
Par exemple, il y a un scénario de Cthulhu que j'avais fait il y a quelques temps. C'était un huis clos mouvant parce que c'était un scénario qui se déroulait dans un train où, en fait, les cultistes étaient les contrôleurs du train. Et il y avait une invocation d'un grand ancien dans le train qui répandait une influence maléfique de plus en plus. Et le but des joueurs, c'était d'arrêter le rituel à même le train. Tu vois, c'était un peu cette notion-là des lieux quotidiens, des situations parfaitement banales, mais qui se transforment en cauchemar. Quoi.
Avec la peur des toilettes des Japonais, qui est très très connue.
Oui.
Ils réussissent vraiment dans Silent Hill à rendre ça vraiment extrêmement flippant.
Silent Hill, c'est un truc assez fou pour
ça. Ah ouais, c'est complètement du délire. Et c'est marrant, pendant que tu parlais, il y a un truc qui m'a frappé. Et que j'ai oublié de dire dans la présentation, mais qui est essentiel, je ne fais jamais que du Cthulhu 1920. Ça, vous pouvez demander à Fly, elle n'a jamais fait de contemporain avec moi. Je n'aime pas le Cthulhu contemporain. Voilà. Je trouve que Cthulhu n'est pas fait pour faire du bon X-Files, en fait, je trouve. Alors, contrairement à ce que supposerait Delta Green, qui justement propose de faire ça. Moi, j'arrive pas à kiffer ça dans Cthulhu. Je préfère
pour
utiliser
moi, la date, c'est du 1920 par défaut, mais c'est pas du tout un truc que je fixe comme acquis pour autant. C'est-à-dire qu'en fait, avant tout, il y a le concept du scénario.
Moi, à partir du moment où il y a des concepts et Internet, je trouve ça pas intéressant.
Alors, peut-être, je sais pas. Et après, il y a des concepts qui peuvent s'inviter plus ou moins à certaines époques. Et je crois que celui où les Migos vous échangeaient les cerveaux, le fait qu'il y ait des portables, c'était pertinent, je crois.
Ouais,
et
je comprends.
Donc, il me semble que ça se passait à une époque où il y a des portables.
Je comprends. Mais tu vois, moi, c'est, bah, par exemple, pour moi, en fait, pourquoi 1920 ? Parce que dans ce délire de huis clos, c'est plus facile d'isoler
bien
des
sûr,
joueurs et
sûr.
De les couper du monde, bien et donc sûr. De les plonger dans une immersion horrifique ou fantastique, quand il n'y a pas de téléphone portable. Quoi. Le téléphone portable, c'est un tue-l'amour du fantastique, je trouve. Enfin, en tout cas, la technologie...
Il tombe souvent en panne dans X-Files.
Oui, d'accord, mais enfin, le
ah,
fait
zut,
de pouvoir allumer
je n'ai,
la lumière...
Je n'ai pas
lumière,
de réseau, comment vais-je faire pour
ne
prendre
que
ma
ça,
date
le fait de vivre dans un monde avec de l'électricité, je trouve que c'est un tue-l'amour pour les Cthulhu.
Oui, mais le moment où tu n'arrives pas à allumer l'électricité, tu retrouves la peur du noir, moi, je trouve. Alors que dans 1920, tu as l'habitude de t'éclairer à la bougie.
Mais les ombres sont grandes. Ouais. Pierre.
Mais en plus, ce contexte de 1920, ce qui est intéressant, c'est que.
Je voulais juste préciser que, attention, en 1920, l'électricité, elle arrive quand même assez. Enfin, elle est quand même assez répandue. Hein.
Oui, mais elle n'est pas utilisée comme aujourd'hui. Elle n'est pas omniprésente.
Non, elle n'est pas omniprésente. Mais bon.
Parce que quand tu es dans un contexte de 1920, tu perds tes habitudes du monde contemporain, en fait. Tu ne peux pas appréhender les choses de 1920 comme tu pourrais les appréhender maintenant. Et du coup, t'as une zone de confort un peu qui est bouleversée de base pour anticiper le monde, déjà le monde normal et puis le monde paranormal qui arrive, tu vois. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle...
Mais tu vois, du coup, pour toi qui veux faire du jeu contemporain, l'utilisation du monde normal, c'est une corde, tu vois, sur laquelle jouer, justement, ces lieux banals, on dit des lieux banals, hein, bah, oui, qui deviennent tout à coup chargés de sens et d'horreur et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ça chez Lovecraft aussi, des mathématiciens qui travaillent dans leur bureau et d'un coup ils sont appelés par l'angle d'une pièce et ça les rend fous. Enfin, ouais, ça c'est. Le fait que Cthulhu se joue en groupe aussi, que ce soit un groupe de personnages, est très contraignant. Moi, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup dans Cthulhu, c'est cette notion de groupe. J'aimerais tellement faire des scénarios de Cthulhu, des scénarios solo. Je trouve que. On en parlait avec Natacha une fois en décrivant je ne sais plus quel jeu de rôle. On disait que le fait d'être seul. Bah c'est Jardin des Esprits, je crois bien, de Fabien Ilvine, qu'on décrivait en disant le fait d'être seul, ça, c'est propice au fantastique car de la narration interne.
Ouais, mais moi, justement, mais j'en parlerai après, mais moi, c'est important pour moi que ce soit pas seul parce que moi, je vais jouer avec le groupe.
Bah oui. Oui, je comprends. C'est pas.
Ça induit forcément des changements dans la structure de la narration entre le fait et dans le choix du scénario. Typiquement, moi, mes scénarios, il y a beaucoup, beaucoup de fois où c'est des familles ou des équipes de travail ou des choses comme ça. Et donc, c'est clair que tu n'abordes pas le jeu de la même façon.
L'horreur se prête au groupe. Quand ce que tu aimes, c'est le fantastique, ça change tout. C'est-à-dire que le fantastique se prête beaucoup plus au solo,
Bien sûr.
C'est ça le problème. Donc moi qui aime le fantastique, bah le groupe pour moi c'est une contrainte qui pousse à l'horrifique, au n'importe quoi, aux gens qui au truc de Stephen King, là, je sais plus comment ça s'appelle, là où ils sont tous dans la brume là,
The Mist,
des trucs comme ça, tu vois. Ou en fait ça va être de l'horreur psychologique, d'interaction sociale en fait
Mais c'est effectivement un des gros problèmes, c'est qu'effectivement je pense pas qu'on puisse faire du fantastique avec Cthulhu
avec
tel qu'il est.
Eh ben non.
C'est clair. Hein,
et c'est ma grande frustration.
Ça reste une inspiration pour certains éléments, mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour le fait que ce soit des one-shots, etc., mais ça reste pas une inspiration.
Et moi, justement,
comment
le fait qu'on puisse
ouais,
pas faire du
pour
fantastique.
Y jouer avec du fantastique, c'est plutôt le jeu qu'on avait testé. Je vais pas me retrouver ce nom. C'est un jeu qui est un des premiers jeux de rôle. Mais un jeu assez vieux, horrifique.
Maléfice,
pour moi, Maléfice s'y prête beaucoup plus.
Ouais, c'est encore différent. Ce que je dis, c'est que l'existence même d'un groupe de joueurs pousse en fait à l'interaction sociale entre le groupe, à l'horreur. Et donc, un peu au n'importe quoi. En fait, moi, à un moment donné, au moment où tout le monde va se bouffer la gueule, et en fait, les joueurs vont beaucoup rigoler. Alors, les personnages vivent l'horreur, hein, mais les joueurs autour, eux, ils vont beaucoup rigoler. Je te jure, je te mets en relation duel avec moi sur un scénario fantastique, tu vas pas rigoler, quoi. Et c'est ça, en fait, la grande différence. Et c'est ce qui fait que, pour moi, Cthulhu, c'est aussi un jeu qu'on aborde, Flavie, de cette manière-là, de façon un peu toonesque, un peu Scooby-Doo, quoi. C'est qu'un groupe d'investigateurs... Enfin, moi, rien que le mot « groupe d'investigateurs » me prête à sourire. Alors que si je dis « c'est un investigateur », ça me fait moins rigoler, en fait. C'est le côté groupe, en fait, qui me pose problème. Pierre, digression.
Après, je sais pas si le problème... vient forcément du groupe d'investigateurs ou du Cthulhu en lui-même. Parce que Cthulhu, il y a une ADN fantastique dans Cthulhu, mais il y a beaucoup aussi de choses qui tiennent de l'horrifique dans son ADN. Je me souviens d'un scénario que j'avais commencé à faire qui était prévu pour tomber dans du Cthulhu. Et au dernier moment, alors j'étais avec deux joueurs à ce moment-là, je précise, moi en MJ et deux joueurs. Et au moment où le scénario est pu tourner dans un trip Lovecraft, je me suis finalement détaché vraiment de cette dimension Lovecraftesque et on était vraiment un scénario fantastique qui changeait beaucoup.
Est-ce que tu joues en virtuel à Cthulhu aussi? Je voulais te demander ça. Alors, j'ai joué... un peu notre expert du truc.
L'expert, waouh. Il file vraiment des diplômes à n'importe qui ces temps-ci.
Ouais, c'est clair, j'ai le droit, je m'en fous.
J'ai déjà fait en virtuel et Cthulhu en table, parce que j'ai toujours eu dans l'idée que Cthulhu se prêtait mieux à la table.
Ah, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'on peut pas faire des scénarios propres virtuels? Est-ce que
tu avec vois... des aides de jeu, des photos, des trucs comme ça, je pense qu'en plus quand t'es seul, bah, moi je voilà. sais que lire le truc,
t'imagines,
je pense que ça,
enquêter
ça peut...
sur les disparus du col de Diatlov toute seule.
Ouais,
à
non,
la barreau,
je pourrais pas moi.
Sur internet avec ton MJ qui est à Lyon ou à machin, toi t'es toute seule à Saint-Malo dans la barreau et tu enquêtes sur les disparus de Diatlov. Ça doit être.
Ouais, c'est pas mal. Et puis t'as ouais. les images.
Ça vaut un peu du rêve.
T'as moyen de surprendre avec les effets de musique, etc. Donc.
Ça peut vraiment, parce que là pour le coup, parce que en relation duel sur un scénario solo, tu restes quand même avec ton meneur de jeu, tu vois. Surtout, là, tu peux jouer en virtuel, tu peux faire des scénarios de Cthulhu où tout le monde est seul.
Surtout
vraiment seul, tu vois, et vraiment isolé.
Après, pour aller plus dans ton opinion, c'est vrai que à mon avis, le fantastique est une construction individuelle, et que si tu dois étendre cette construction à un ensemble d'un groupe, soit ça prend du temps, soit c'est pas aussi c'est pas possible à hauteur de ses ambitions. Je sais pas ce que vous en pensez vous autres.
Adrien.
Je me demande si c'est même pas quelque chose qui est purement littéraire, en fait. À quel point ça peut se traduire en jeu de rôle ou pas, quoi.
Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais. Est-ce que j'essaye pas de mettre un fantasme littéraire?
Parce qu'une partie du fantastique, ça repose beaucoup sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, du twist, en fait. Le moment de doute, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pistes, et puis il y a ce moment où on croit vraiment avoir vu l'ombre, ou genre, pour ce scénario-là, pour le préparer, j'avais relu la nouvelle de Lovecraft, comment il s'appelle déjà?
Le chuchoteur dans les ténèbres.
Ouais, celui qui chuchotait dans les ténèbres.
Ou celui qui chuchotait. Enfin, c'est The Whisperer in Darkness en anglais.
Le titre est tellement génial.
Ouais, j'adore,
celui sur les migots, quoi, en gros. Celui qui pose les migots. Et. La structure est tellement tournée autour de quelqu'un rationnel qui va avoir plein de pistes, plein d'éléments qui vont commencer à lever le doute, enfin à mettre le doute, etc. Et le moment où il va là-bas, il y a plein de choses très étranges et il s'enfuit. Le truc, c'est que si tu fais jouer ça à un joueur en jeu de rôle, tu...
Celle-ci, elle pourrait presque se jouer avec une première partie en épistolaire. Et ensuite en...
Je sais pas, parce que... en général, les moments de fantastique où t'es soumis vraiment au étrange, les personnages fuient, en fait, et fuient très vite.
C'est pour ça que je dis première partie en épistolaire.
Ben non, parce que du coup, la partie qui se jouerait, elle durait 20 minutes, même pas.
C'est pas grave.
Ok, ça peut être une expérience étrange, mais... Mais pourquoi pas, effectivement, peut-être via épistolaire. Peut-être.
Je pense surtout que la seule façon de pouvoir rendre quelque part du fantastique, ce serait de ne pas dire qu'on va jouer à Cthulhu.
Oui.
Ah, ça c'est vrai aussi. Ouais. Le fait que Cthulhu pose d'entrée.
Ça nous est arrivé une fois de faire ça. C'est à l'époque où on jouait avec un contrat social chier à la colle. On avait fait une double table où il y avait donc c'était quand j'étais en étudiant et c'était une époque où on avait un club de jeux de rôle super actif et donc en gros on faisait trois parties d'hier toutes les semaines, enfin c'était la folie. Et il y avait un week-end où il y avait deux MJ qui s'étaient mis d'accord, les joueurs n'étaient pas au courant, il y en avait un qui proposait une partie de Cthulhu, on allait faire du Cthulhu, et l'autre qui proposait une partie d'INS, je crois. Et puis quand les joueurs arrivaient à la partie d'INS, le mec disait: ah, je suis désolé, j'ai pas retrouvé mon bouquin et les feuilles de perso, j'ai fait des feuilles de Cthulhu. C'est du INS, vous allez jouer des humains dans l'univers d'INS, et en fait c'était du Cthulhu, quoi. Mais on n'était pas au courant.
la vie.
Et c'était une double table qui se retrouva à communiquer, à interagir. Et donc là, enfin, le niveau contraception, on était posé là, quoi. Donc il y en avait pour qui la partie horreur a vraiment survenu. Sachant qu'en plus, ce jour-là, il y avait de l'orage et un mec s'est pointé à côté de la piole au moment où un éclair a flashé. Donc t'avais sa tête blafarde à la fenêtre. Enfin bon, il y a eu des trucs de folie cette partie-là. Mais c'est parce qu'il y avait mensonge que l'horreur a pu revenir.
Moi, en fait, si je pense à ça, ce serait totalement moche du point de vue du contrat social. Mais parce que aux dernières vacances où on est allé, vacances censées être idylliques, j'ai prévu une maison incroyable et tout. En fait, il s'est passé plein de trucs chelous pendant les vacances. Et je peux vous jurer que quand on est parti de la maison, en fait, j'étais trop contente de partir de la maison.
Et le gîte qu'on avait loué.
Ouais. Le gîte qu'on avait loué, il y avait des trucs trop chelous et j'étais contente de partir. Et en vrai, bah, je pense que la seule façon...
Tu savais pas que t'allais faire un scénar de Cthulhu quand on a loué ce gîte.
Non. Je me dis que c'est la seule façon... Parce que moi, du coup, oui, on me dit on va faire du Cthulhu, on va y aller dans l'horreur. Mais en vrai, le fantastique, si on regarde la définition, c'est... l'apparition de choses étranges dans un contexte normal.
Un quotidien. Dans le banal, quotidien. Ouais.
Donc à partir du moment où on fixe un contrat social de Toulouse, ça... Ouais.
Ça ne fonctionne pas.
Alors, juste, moi je voulais préciser que il y a un jeu de rôle qui arrive à faire ça bien jusqu'à présent, c'est Perdu sous la pluie de Vivien Féasson.
D'accord,
fait
ouais.
Du fantastique, parce qu'à la fin, le dernier enfant qui se réveille chez lui, il y a un doute sur est-ce qu'il a rêvé, est-ce que... en plus, comme c'est des personnages d'enfants, il y a toujours l'imagination qui est un peu...
D'accord.
Voilà, qui remet en doute la perception des choses, et ainsi de suite. Donc, du coup, pour moi, le Perdu sous la pluie de Vivien Féasson est un jeu de rôle qui correspond à la définition de fantastique telle que Todorov l'a formulée.
Très bien. Pierre ?
Et je suis ça dans votre sens, et d'autant plus que je rajouterais que je pense qu'en fait l'imaginaire Lovecraftien tel qu'il est envisagé par la plupart des rôlistes est très différent de l'imaginaire qui est véhiculé par les livres.
Ah.
Et il y a toujours dans la vision rôliste une dimension un peu absurde de Cthulhu ou grotesque.
Alors,
ça c'est clair, alors, je suis complètement d'accord.
Parce que oui et non,
Adrien.
Parce qu'en fait en relisant récemment celui qui jetait dans les ténèbres, il y a plein de name dropping avec qui a un peu cet aspect j'en foutre de Cthulhu, quoi. C'est...
Oui, le problème
ouais,
dans la base...
mais ils sont pas amenés là de la même manière, Adrien.
Et puis le problème dans la base, c'est que c'est un catalogue, quoi.
Oui.
C'est en fait, ça alors, dédramatise
oui,
tout. Alors
en fait,
que dans les romans, les livres, tu
mais
les
ça,
découvres...
Alors
par...
attention, là, le livre, il est lu par le MJ. Dans ma relation à Cthulhu, il y a aussi le fait que pendant très longtemps, je ne savais pas ce qu'il y avait dans le livre. Et donc, en fait, c'était un scénar, un nouveau monstre ou un monstre qu'on connaissait déjà. Et tout l'enjeu, c'était c'est quoi ce monstre ? Est-ce qu'il y a des moyens de le vaincre ou pas ? Comment réagir à ça ? Sachant que souvent, c'était juste vous mourrez et t'en sais pas plus.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la banalisation ? Parce que les uns les autres, on est tous devenus tour à tour des meneurs de jeu.
Parce
et en
que
fait, on sait tout ce qu'il y a dedans.
Il n'empêche que c'est comme ça aussi. C'est peut-être quelque chose dont on s'est un peu éloigné sur ce podcast, mais on pourrait y revenir sur comment je conçois ces scénarios et comment vous les concevez. Et c'est pour ça que je t'avais reposé la question le moment où tu disais que toi, tu faisais beaucoup de recherches internet, tu utilisais énormément les suppléments, les supports, etc. Je t'ai demandé en tant que joueur, et tu m'as dit oui, parce que moi, c'est l'inverse. Moi, je le fais en tant que MJ. Mmh. C'est-à-dire que je vais, par exemple, les règles de dégâts d'empoisonnement, pour moi, la règle est inintéressante, à part pour le fait qu'elle liste une liste de poisons avec où est-ce que ça se trouve, etc. Et puis tu vas te dire, ah, ce poison, il se trouve là-bas. Si je faisais un scénar qui tourne autour de ce poison, peu importe la règle, en fait, il y a ce poison et c'est une source d'idées. Et le catalogue des monstres, c'est pareil. Le catalogue des grands anciens, c'est pareil. Je vais jamais avoir un scénar où j'ai trois grands anciens, huit monstres, du poison, des dégâts de chute, des dégâts du froid. Non, je vais avoir un grand ancien qui me plaît. Et donc, du coup, ça va être quels cultistes peuvent le vénérer ? Pour quelles raisons ? Quel est leur plan derrière l'invocation de ce truc-là ? Et à partir de là, je me crée une partie. Mmh. Ça peut être quel monstre ? Où est-ce qu'on peut trouver ce monstre ? Qui a pu déranger ce monstre récemment ? Ou alors, qui peut vouloir exploiter ce monstre ? Et du coup, comment les PJ vont se retrouver confrontés à des gens qui sont en train d'essayer d'exploiter ce monstre ? Et alors, effectivement, ça reste du non-fantastique dans le sens où il y a une vision un peu utilitariste, entre guillemets, de l'élément, qui est moins cosmologique,
ésotérique,
fantastique. Ouais, parce qu'effectivement, moi, je réfléchis comme ça. Mmh. Ouais, c'est peut-être un travers de mes scénarios.
C'est l'horreur rationaliste, tu vois, quelque part.
Alors, oui et non, parce qu'il n'y aura pas forcément...
C'est triste.
Alors, non, parce que ça, c'est ce qui est écrit sur ma feuille, mais c'est pas forcément ce qui va être passé aux joueurs.
Ah, je sais.
Typiquement, dans le scénar des Migos artistes, il n'y a aucun moment donné où un PNJ ou un PJ, enfin, ou un de mes personnages va valider aux joueurs, leur dire oui, les Migos cherchent à faire ça. Les joueurs vont jouer, à la fin sera fini, ils seront morts, vivants ou pas. Et soit je vais faire un petit sourire et je vais repartir ne rien dire, soit les joueurs vont me supplier, on va en discuter ou je sais pas quoi et je vais cracher le morceau. Mais en tout cas, le temps de la partie. Bah alors là, du coup, j'ai cassé quelque chose pour vous, c'est que vous pouvez savoir que il y a toujours une idée rationnelle derrière.
Mais c'est celle
du grand ancien, quoi.
Quelque part, on sait, enfin, on le sait bien. Ça reste du Cthulhu. Je connais personne qui fait des scénarios de Cthulhu chaos. En fait, il y a toujours une raison, il y a toujours une explication. Parce qu'il y a une vraie.
La maison qui mange.
Parce qu'on est des investigateurs et donc on doit trouver des explications.
Non, parce que moi, quand je joue à Cthulhu, mes joueurs sont pas des investigateurs, ce sont des humains.
Oui, non, mais d'accord. Mais l'idée, c'est que il y a quelque chose à trouver. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une vraie quête de secret dans Cthulhu aussi, mine de rien. C'est un jeu à secret, moi, je trouve, Cthulhu.
C'est un jeu qui invite ça, bien sûr.
Voilà. Flavie, je te voyais à plusieurs reprises tendre la main vers le micro, puis retirer ta main. Je suis sûr, tu as pris plein de notes, je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire.
J'ai un plan.
Non.
Je te jure, j'ai un plan.
Non, on va tout le casser.
C'est un plan en une partie.
Vous voyez, auditeurs, c'est ça l'illustration du fantastique. On ne sait pas si elle est sérieuse ou pas quand elle dit qu'elle a un plan.
Non, mais en fait, je me suis rendu compte quand je vous expliquais, quand je vous écoutais là, que au lieu de, je m'apprêtais à tendre la main vers le micro, puis je notais en fait, j'ai une structure quasi claire en fait sur comment je crée mes scénars. Donc je vais pouvoir vous la dire. C'est un scénar en 7 points.
En 7 points.
7 points.
Non, mais c'est bien parce que c'est un chiffre magique, donc ça fonctionne bien.
C'est parce que c'est Dieu. Magique. Dieu m'a soufflé ça. C'est les chocottes. Dans un premier temps, j'ai besoin d'avoir une histoire qui m'inspire. Un conte, un film, une série B, une fête.
Ça, c'est vrai.
Une fête, par exemple, j'ai fait un scénar autour de Noël.
Oui, dans tes scénarios.
J'ai besoin d'un film. Par exemple, là, il y a un film qui m'avait inspiré sur la cabane dans les bois. Un conte, une série B. Mais alors, les séries B, c'est du pain béni, quoi. Du coup, moi, j'ai pas besoin d'aide de jeu. Moi, d'ailleurs, j'en ai très, très peu autour de ma table. J'en ai quasiment jamais. C'est très, très rare. Aussi parce que je sais pas ce que vont faire mes joueurs. Et j'ai souvent... quand j'ai cette histoire-là, je prends la base et j'essaye de voir s'il y a quelque chose qui correspond, en fait, dans le livre, dans les monstres, etc. Et s'il n'y a pas, en fait, je vais juste prendre la caractère d'un monstre parce que ça me casse les pieds, en fait, d'en créer un et je vais me créer un monstre comme ça. Je prends la carotte d'un monstre, change 2-3 trucs et puis voilà.
Et souvent c'est ça, le grand ancien caché derrière le conte que tu vas dénaturer, l'histoire que tu vas
ce qu'il me faut, c'est un bac à sable, ce qui m'amène à la deuxième partie. Je vais avoir besoin, déjà je vais créer des indices. Moi, j'ai besoin d'avoir plein d'indices, mais je ne sais pas comment les joueurs... Je ne sais même pas moi-même, en fait, comment je fais pour les lier. Je n'en ai aucune idée. C'est les joueurs qui vont se débrouiller. Je me rappelle d'un scénar sur Jack the Ripper que j'avais créé, où j'avais plein d'indices what the fuck, et vous aviez trouvé plein de trucs avec, alors que moi, j'avais créé ces indices-là. J'avais pris, en gros, la carte de l'endroit où il avait frappé. J'avais vu les magasins, et donc j'avais un épi de maïs, des trucs what the fuck, et vous aviez trouvé plein de trucs avec, mais souvent, je ne sais même pas ce que les joueurs vont en faire. J'ai plein d'indices. J'ai besoin d'avoir un début crescendo. Généralement, vous êtes, alors, sauf dans le cas de Jack the Ripper, où il y avait des choses, où en gros, on se retrouve, on doit aller par exemple quelque part. Généralement, je fais intervenir un truc un peu chelou, mais en décalage en fait, mais un décalage très très léger, genre une petite fille qui saute à la corde et elle chante une chanson, et à un moment dans la chanson, il va y avoir un truc horrible qu'elle va dire, puis elle va continuer ensuite la chanson.
Et donc, plus ça va aller, plus il va y avoir des indices.
Et souvent, je mets une musique.
Toujours pour cette histoire de surgissement de l'étrange dans le.
Et je mets une musique, et à un moment, je vais couper brutalement la musique, mais je vais continuer le truc.
Ouais. Ça aussi, moi aussi, tiens, on n'a pas précisé ça, mais moi.
Et alors que j'utilise très très peu la musique, généralement, au moment où je coupe la musique, c'est le moment où ça va démarrer, en fait. Et je mets aussi pas mal de sons. Parce que je trouve que le son de la pluie, quand tu joues à un jeu comme ça, en fait, ça te refroidit.
Si jamais tu joues à l'extérieur et tout ça, c'est vrai que c'est...
Et du coup, je vais aussi beaucoup, beaucoup faire des têtes un peu bizarres et tordre mon corps pour toujours jouer avec ce décalage au début, ce qui nous fait arriver au bac à sable. J'ai pas prévu, c'est la même chose que mes indices. J'ai prévu un lieu qui peut être énorme avec des choses qui se passent à certains endroits, Mais on va voir ce qui va se passer, on va voir comment vont... Et tout est une question de ressentir, en fait, ce que font mes joueurs autour de la table.
Tu es en réaction, en fait, tout le temps.
Tout le temps. Tout le temps. Et souvent, en fait, c'est aussi parce que j'adore regarder mon groupe cabotiner. Mmh. Je ne suis pas là pour faire... Je regarde mon groupe faire des trucs. Et le cabotinage qu'ils vont faire, souvent, finit par amener le rire, mais il y a aussi des petits rires nerveux puis qui vont faire... Je me délègue de regarder mon groupe qui rit et qui cabotine. Et ça m'éclate. D'ailleurs, souvent, j'aime bien jouer avec le groupe et je mets des pièges qui sont extrêmement visibles. Je veux dire, t'entends derrière une porte, mais là, tu devrais pas y rentrer. Et je sais très bien qui vont être les deux autour de la table qui vont y rentrer. Ou alors, je fais lancez vos jets de dés. Il y en a un qui m'a raté le jet de chance et je le fais venir à côté. C'est pas forcément celui-là qui va faire le traître.
Les joueurs pour créer de la parano.
Mais du coup, les autres, ils regardent quand on revient et ils font et ça va cabotiner à fond. Et ça, j'aime bien faire ça. Je prévois toujours ou deux trucs comme ça.
Donc, tu prévois des éléments qui vont permettre de faire ça.
Ouais.
Parce qu'en vrai, tu peux pas prévoir que les joueurs vont cabotiner.
Non, mais j'essaye de voir ce qui va se passer.
Sauf à jouer toujours avec le Guy, comme tu le fais, mais oui. Ça, c'est autre chose.
Pas toujours.
Et pas toujours, mais...
Très souvent, il y a une chute. Moi, mais parce qu'en fait, je fais la chute avec le personnage qui survit. À chaque fois, le personnage qui survit, je vais lui faire une fin « what the fuck ». Par exemple, Guy, au moment où dans le truc de du Père Noël avec les zombies, les zombies de Noël.
Le Père Noël de sa patte.
Le Père Noël de sa patte. Guy est devenu complètement fou, c'est le seul qui survit. Et en fait, il trouve un flingue avec un ruban de Noël. Et je lui dis, et regarde en bas, il y a la ville là-bas et tout a l'air beau et illuminé. Et il décide de descendre vers la ville en chantant Joyeux Noël. À chaque fois, en fait, mes chutes, en fait, c'est sur le personnage qui survit et qui finalement est devenu complètement secoué, quoi.
Mais tu vois, tout ça, c'est pas de la préparation que tu nous décris là. C'est la forme que tes scénarios vont avoir au final.
Mais c'est ça, mes preps. Ça tient sur, en gros, deux feuilles à quatre, quoi, max. Et parce que des fois je me dis je vais quand même marquer 2-3 trucs, mais souvent j'utilise pas la moitié. Et d'ailleurs je suis en train de créer en ce moment un scénar de Cthulhu, et parce que du coup j'avais repéré que je faisais souvent la même chose, et mon idée ce serait de rester uniquement sur le début, en fait, sur ce crescendo, en fait. C'est mon idée, c'était vraiment qu'on reste dans la recherche de on est perdu, qu'est-ce qu'on fait, et qui est juste des trucs. Je me rappelle que le moment où j'ai vu le plus flipper à une table, c'est le moment où il y a des loups qui hurlent au loin. Et en fait, on n'est pas forcé qu'il se passe quelque chose autour d'une table, en fait. Que généralement, juste des ambiances. Je me demande si je peux pas créer un scénar comme ça.
Ça me fait penser à ton scénario du pneu.
Bah oui, moi
ouais,
aussi.
C'est ça.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et tu vois, le pneu, ça fonctionne parce qu'on sait qu'on est dans le cadre d'un scénario de Cthulhu.
Oui, là par contre, oui, ce scénar repose que sur ça, en fait.
Parce que sinon...
expliquer quand même, du coup.
Oui, c'est vrai. C'est quoi le scénario du pneu, Adrien ?
Alors, le principe, c'est qu'on fait créer des personnages de Cthulhu à des joueurs. On vérifie bien leurs fiches, on vérifie qu'ils aient bien pris les caracs habituels. On leur fait un petit... Voilà, il faut qu'ils se sentent vraiment dans l'ambiance du scénario de Cthulhu. Et puis, l'inkipit, c'est vous sortez de votre voiture ou du supermarché, vous êtes allé faire quelques courses avant de retourner à l'hôtel.
Il fait nuit quand même.
Bien sûr, il fait nuit. Vous arrivez près de votre voiture et sur tout le parking, y a les lampadaires sont éteints, sauf un qui clignote pas trop loin de votre voiture. Et au centre de la zone qui l'éclaire, il y a un pneu. Qu'est-ce que vous faites ?
Du génie. Ouais.
Et c'est absolument tout ce qu'il y a dans le scénario, quoi. Ouais. Et en fait, à partir de là, tu peux faire énormément de choses parce que tu mets sous le spotlight un objet du quotidien et le Cthulhu fait le reste, quoi. Tu peux limite improviser un peu, mais normalement, la réaction des joueurs peut faire énormément de choses, quoi.
C'est les joueurs qui vont commencer à stripper sur le pneu. Ouais.
Ils vont te poser des questions, genre, mais il était là avant ? Et là, après, c'est à toi de répondre. Oui, il est là depuis très longtemps. Ou alors, inversement. Non, il n'était pas là avant.
Il est encore chaud.
Il est encore chaud, ouais. Enfin, et tu peux faire des choses incroyables juste avec ça, quoi.
Mais
c'est
ce
la force
pneu,
de
il bouge un peu. Est-ce qu'il a des marques sur lui ?
Et là, après, tu peux répondre.
Est-ce qu'il a des bas-reliefs ?
Mais tu vois, tout ça suppose que... Moi, je trouve que pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions quand on est joueur de Cthulhu ? C'est parce qu'on sait qu'il y a une préparation derrière. Et moi, c'est ça aussi que je vois, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle de nos préparations de Cthulhu ? C'est parce que quelque part, on prépare quelque chose. Et moi, c'est toujours un peu parce que pour avoir joué un peu, j'ai joué au scénario de Flavie, j'ai joué au scénario d'Adrien, et j'ai pour tous les deux des ressentis très différents. Pour les scénarios de Fly, moi justement, tu vois, parfois tes scénarios Fly, je trouve qu'ils manquent de contenu. Je sais qu'on va nulle part en fait. Donc il y a un moment donné, en fait, ça sent en fait, c'est pas tangible, ça manque de quelque chose. Toi, Adrien, c'est encore différent. C'est que quand je joue à tes scénarios, ce qui me frustre. Là, je parle des points négatifs, parce qu'il y a plein de choses positives, évidemment. Ce qui me frustre, c'est plutôt que j'ai l'impression que toi, tu t'amuses parce que tu sais où on est, mais que nous, on ne sait pas où on est. Ça, c'est ce que je t'avais déjà dit aussi pour le scénario du phare, tu sais, et du concombre géant, du coup, etc.
Oui, bien sûr, mais ça se fait
un... Obviously, j'ai envie de dire, c'est un peu le propos du truc. Et voilà, c'est... Mais bon, là, par exemple, si je prends le scénario des œuvres d'art, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, je pensais plutôt au scénario spécifique des Péruviens, peut-être, ou... Le truc des feuilles, par exemple, qui se clenchaient les unes aux autres, là... Ouais.
Le scénario des Péruviens, je me rappelle même plus ce qui se passe. Je me rappelle qu'il m'avait été inspiré à cause de votre piano.
C'était un scénario avec Astur, où donc on jouait tous les enfants d'une actrice qui était morte, et donc on se retrouvait tous alors qu'on...
Flavie a une révélation, elle vient de se souvenir.
J'avais oublié que j'avais fait scénar.
Ah, donc c'était pas sur le Astur.
Ça me dit quelque chose.
Du coup, ça doit être les Migos qui échangeaient cerveau en parallèle de la maison de la cabane dans les bois, et ensuite on a fait Astur tous ensemble. Mais donc.
C'est celui où t'es dans une chambre et se passe des trucs dans la chambre à côté ou pas ?
Non.
Par contre, il y a toujours, je trouve, dans Cthulhu, une scène marquante qui te marque. Dans chaque scénario que j'ai fait, je pourrais te citer la scène du scénario, quoi. Qui m'a marqué particulièrement.
Ouais.
Non, pas toi ?
Je sais pas. Donc du coup je reprends, je termine juste rapidement sur la fiction sur Astur. Donc elle est morte, on se retrouve dans sa maison de résidence, donc tous ses enfants, donc on est que des frères et sœurs pour le partage de l'héritage en fait, concrètement. Et comme elle a fait un pacte avec Astur, et ben les choses partent en couille, quoi.
Elle avait une malédiction. Et vu qu'elle n'a pas pu l'accomplir, un truc comme ça, c'est un des héritiers, enfin, de ses successeurs de l'assumer, quoi, de le faire. Et du coup, c'est un scénar où je voulais qu'il y ait un peu de conflit entre les joueurs pour... Est-ce qu'il y aura des meurtres pour que le prix soit payé ou pas ? Est-ce que quelqu'un va se sacrifier ou pas ? Il y avait cette tension-là derrière.
Mais
et ça se passait à Carcassonne.
Oui.
Progressivement se transformait en Carcosa.
En Carcosa,
ouais, ouais, c'est ça. L'idée à la base que j'avais eu, c'est que ce que j'avais kiffé, c'est que chez toi, là, dans la bibliothèque, il y a un piano qui est complètement désaccordé avec la moitié des touches qui sonnent creux. Enfin, c'est incroyable. Et donc j'avais cette idée d'un personnage qui jouerait ça dans le salon, qui jouerait cette musique étrange. Et j'ai associé ça à Carcosa, qui ensuite, enfin voilà, donc le scénar est né de ce truc-là. Et donc pendant la partie, j'allais jouer du piano toutes les nuits de la fiction.
Mais ça, c'est pas une constante.
Moi, je l'ai pas fait celui-là, non.
Ça, c'est pas une constante que vous retrouvez tous et toutes dans les préparations. Qui est que souvent on part d'un petit truc.
Mais en fait, petit truc. En fait, c'est ce que j'essayais de dire quand je dis je lis des listes de venins, je lis des listes de monstres, je lis des listes de grands anciens, et je me dis où est-ce que je pourrais le trouver ? Est-ce que celui-là me plaît ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Et en fait, je pars de quelque chose, que ce soit un monstre, un grand ancien, voilà. Un poison.
Un petit truc qui me fait triper.
Je pars rarement d'anecdotes, genre d'anecdotes réelles, mais effectivement, je pars d'un détail et ensuite je vais créer autour.
C'est marrant. Et moi, je disais tout à l'heure, Natacha, pour les scènes, à chaque fois qu'on m'évoque un scénario de Cthulhu, il y a toujours une scène marquante. Et dans mes préparations, ça se ressent aussi. Moi, j'arrive souvent à une scène marquante, tu vois, où j'ai envie d'arriver, quoi. Une scène où j'ai envie d'arriver. Moi, je suis moins bac à sable que vous, hein, par rapport à ça. Par rapport à ce que vous dites. Je comprends pas très bien ce que veut dire Cédric.
Toujours très clair.
Plus tard. Et moi, il m'a scotché personnellement.
Ouais, c'est clair.
Ok.
Est-ce que quelqu'un prévoit de faire un scénario sur du scotch du coup dans Cthulhu ?
En tout cas, je peux te dire
vous
que les personnes
dans un bureau
boivent pas mal de scotch.
Sur la table, il y a du scotch.
Et qu'est-ce qu'il fait ?
Il était là depuis longtemps ou ?
Il est encore chaud.
Adrien, est-ce que tu voulais ajouter
un petit quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de quand l'horreur surgit dans le quotidien et dans le normal. Tu parlais de l'horreur des toilettes ou je sais plus quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui est très loin de Lovecraft. Parce que dans Lovecraft, c'est pas le quotidien qui
est plus le réel qui intervient dans le n'importe quoi en fait.
Bien sûr.
Moi, dans ce que j'ai lu, moi, de lui. Moi, j'ai pas lu énormément de choses. J'ai lu une histoire où en gros, il y a quelqu'un qui vit dans l'obscurité, qui vit des trucs trop chelous, et à un moment, il trouve un trou. Et il ouvre et en fait il se retrouve ce qu'on comprend nous être dans une maison éclairée et en fait il se voit dans le miroir et il a trop les boules, il y a un truc trop chelou face à lui et en fait c'est lui et il redescend là où il était et moi c'est plus des choses comme ça que j'ai lu en fait de Lovecraft.
En général l'horreur dans... Excuse-moi Pierre.
C'est pour te répondre que en effet l'horreur lovecraftienne se prêtait pas forcément à ça mais je dis ça dans le contexte où l'horreur lovecraftienne chez les gens évoquait différentes choses.
D'accord. Oui, c'est ça.
Et pour moi ça évoquait ça quoi.
D'accord. Mais en fait, c'est cette horreur-là qui toi te touche peut-être.
Ouais, c'est cette horreur qui me touche. Je pense que le mythe, dans son côté occulte, caché, a des potentiels dans ça. Mais en fait, le mythe de
ça me surprend parce que moi, quand je vois la source de l'étrange dans Cthulhu, c'est des choses qui viennent de l'espace, hein, des choses très anciennes. Ou de la magie en fait ou quelque chose comme ça. Tandis que l'horreur à la japonaise comme vous dites des toilettes, c'est quelque chose que je vois, je sais pas, chez Stephen King avec du sang qui remonte des éviers avec le clown et le ballon et c'est une peur qui est beaucoup plus contemporaine, j'ai l'impression.
Psychologique en fait.
Et psychologique qui est très différente.
Pour moi Lovecraft Natasha. c'est souvent des gens très rationnels. Ou des érudits, des scientifiques, des chercheurs, ou des gens qui des professionnels de la profession, mais qui ça peut vouloir tout et rien dire.
Des professeurs. Ouais.
Non, mais je dirais mon exemple quand je dis professionnel, parce qu'en fait c'est pas exactement un chercheur celui auquel je pense, qui vont dans des régions un peu sauvages, campagnardes, etc., et qui se retrouvent confrontés à des trucs que leur science n'a pas le pouvoir d'expliquer quoi.
Ouais. Et l'innommable, l'inexplicable.
Ouais. Je pense à la couleur tombée du ciel où c'est pas tout à fait un scientifique, je crois qu'il est géomètre ou un truc comme ça, et il arrive dans cette région où il y a une famille qui a on lui raconte ce qu'une famille de paysans a vécu avec la couleur tombée du ciel dans leur puits, etc. Et donc voilà, et donc il se retrouve confronté à ça. Mais à la base, il est très, très pragmatique, il a les mathématiques, etc.
C'est vrai que l'investigateur de Cthulhu, c'est toujours la mauvaise personne au mauvais endroit. Il n'est pas fait pour affronter... Non, je dis de la merde.
Il est fait pour affronter, justement,
son surrationalisme va être un obstacle dans la mesure où là, les choses qu'il doit comprendre sont précisément incompréhensibles par la rationalité humaine.
Et d'ailleurs, mon premier scénar de Cthulhu que j'ai fait en tant que joueuse, je l'ai joué comme ça. J'ai joué le personnage qui cherchait absolument, dans toutes les manifestations du fantastique, à trouver une explication rationnelle.
Rationnelle. Mais je crois que c'est récompensé. Hein. Si tu trouves des explications rationnelles, tu perds moins de points de santé mentale, tu peux même regagner de la sane.
Mais en fait, ça fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est quand tu rates un test de sane et que tu rates ensuite un jet d'intelligence ou un jet de la carac en question... Si tu réussis un jet d'intelligence, tu rationalises ou non, enfin il y a un truc comme ça.
Oui, il me semble
qu'au contraire, quand t'as des situations où si tu abordes avec une approche rationnelle et que tu réussis, tu perds de la sane parce que tu te confrontes ta rationalité se confronte à de l'irrationnel.
C'est ça. Se heurte en fait.
Tandis que si tu rates ton test, ça te passe outre. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Cette relation entre le sachant à la situation qu'il devrait savoir, pas, toujours dans celui qui chuchotait dans l'oreille dans les ténèbres, le personnage principal, enfin en tout cas le narrateur, c'est un érudit sur principalement les cultures anciennes de la région où il y a cette personne qui a des événements étranges qui lui arrivent, et il communique avec cette personne-là. Et donc, en fait, il sait que je suis rationnel sur ce sujet, mais j'ai entendu tellement de choses qu'il a une dose d'acceptation de l'irrationalité déjà, celui-là. Alors, c'est peut-être une exception dans les histoires, mais c'est quelqu'un qui est proche de son sujet.
C'est pas si clair que ça. En fait, pour lui, ça reste des légendes, justement. Il a presque une approche soit anthropologique, soit littéraire, et en disant ce sont des légendes, des points, quoi.
Bien sûr, il y a beaucoup de légendes, mais en fait, il y a plusieurs moments où il dit il y a tellement de légendes que ça ça peut avoir quelque chose. Il peut
non,
avoir
ça
ici...
c'est ce que dit ses collègues.
Non, 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 il le dit lui-même. Il dit...
On ressort la nouvelle et je te cite le passage
Sacha,
ou...
je l'ai lu il y a...
Oui, moi aussi, je l'ai relu quand
il est sorti. Il y a des passages où il dit... ces témoignages pourraient indiquer une espèce endémique ou quelque chose. Alors, ça reste de la rationalité, mais il n'empêche qu'il il accepte des exceptions. Il est prêt à accepter des exceptions à, sa, à son
Ce que tu veux dire, Adrien, c'est que l'horreur métaphysique de Lovecraft te frappe toujours là où tu es fort, quelque part. Et que, justement,
ouais,
parfois,
souvent,
être
ouais.
un peu un benêt qui réfléchit pas, qui se pose pas trop de questions...
Et heureux les simples d'esprit, tout
voilà,
ça.
C'est ça. Ouais, il y a quelque chose ça, de cet ordre-là.
Les personnages à qui ça arrive, c'est j'ai un géologue qui... Je me rappelle dans une nouvelle avec un géologue qui descend dans une grotte et il y a des bruits de tambour qui viennent alors que c'est une grotte qu'il vient de découvrir. Et donc, c'est le géologue dans son milieu de confort, a priori, qui est confronté à cette chose-là. Et alors que peut-être les habitants du coin diraient « Oh oui, ce bruit a toujours eu lieu, quoi.
» Ouais. Oui. Excellent. Pierre.
C'est rigolo que tu parles de ça parce que dans Trail of Cthulhu, qui est le Cthulhu que je fais jouer, il y a une mécanique qui me rappelle un peu ça qui s'appelle les piliers de santé mentale, qui sont en gros des croyances profondes qu'ont les personnages, des croyances absolument la science, la religion,
ça a l'air bien,
la famille,
Trail of Cthulhu.
Ouais, ça a l'air bien, dis donc.
Bien, ouais, c'est dommage.
Si on y jouait,
pourquoi pas. Et. En fait, en gros, c'est d'abord une défense pour les joueurs pour se protéger des pertes de santé mentale. Mais au fur et à mesure, t'as un système qui font que ces piliers vont s'effondrer sur eux-mêmes, tu vois.
Ça a l'air bien, Trail of
Cthulhu. Ça a l'air bien, Trail of
Cthulhu. Ça a l'air bien, Trail of Cthulhu, hein.
Et si on le testait, un de ces quatre?
Ah bah, je sais pas.
Ouais, il va falloir qu'on ait, il faut à tout prix qu'on le fasse. Ça a l'air vraiment intéressant de voir comment ils ont patché ça. Le fait d'être attaqué comme ça sur ses points forts, je trouve que ça joue énormément, en fait, de l'horreur, tu vois, de la remise en jeu de tes croyances, la remise.
Bien sûr.
Et alors ça, pareil, dans vos préparations, est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez sérieusement? Moi j'ai l'impression que c'est
ouais.
un peu oublié. Moi,
un peu, ouais. Ben là, tu vois, si. Mon scénar, c'était des artistes confrontés à des migos qui travaillaient sur l'art.
C'est vrai.
Oui, mais ils sont pas confrontés. Quelle est leur rationalité quand ils arrivent.
Et puis ça, c'est quelque
Bien
chose
sûr.
Que tu peux faire.
Je sais pas s'ils sont croyants,
toi,
par exemple.
Prépare tes personnages. Ça, je m'en rends compte. Ouais. Moi, par exemple, quand on faisait des scénarios de Cthulhu à la Barreau, les personnages, on reprenait souvent les mêmes qu'on avait pris avant. On se prenait pas trop la tête, quoi. On se distribuait les persos, mais on avait une feuille, une chemise avec plein de persos qu'on avait fait autrefois.
Oui, puis celui qu'on utilise, on tire aussi les personnages au hasard.
Ah oui, c'est vrai qu'on tirait nos persos au hasard quand on l'utilisait. Parce que ça nous amusait, en fait. Résultat, on se retrouvait aussi...
Moi, c'est un peu l'égal. C'est juste que je fais des pré-tirés avec quelques traits de caractère éventuellement, avec des liens les uns entre les autres.
D'accord, ouais.
Histoire de faciliter le début de la partie. Surtout dans ce cadre-là où c'est du huis clos, il y a 12 personnages, vous en jouez 3, 4. Et les autres, c'est moi qui les gère en PNJ. Vu que je connais leur caractère, je sais un peu ce qu'ils font au quotidien.
Est-ce que tu conseillerais du coup, Adrien, de préparer les personnages?
Moi, j'aime bien les pré-tirer. Ouais.
Ok, très bien.
Ouais, j'aime beaucoup les pré-tirer.
Donc, ça fait partie de ta préparation.
Ouais. Ah ouais, c'est quasiment systématiquement des pré-tirés que j'ai.
Très bien. Alors que nous, pas, par exemple. Flavie.
Moi, ce que j'aime bien quand je joue en tant que joueuse, c'est, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais tant pis, c'est créer un personnage moyen.
Oui, oui, très très important. Mes personnages sont quasiment jamais minimaxés.
Il y a jamais. Moi, j'ai jamais. À une époque, j'ai essayé de minimaxer. C'était pas.
Sauf quand c'est moi qui les prépare.
Et c'était pas très très. Je m'amusais pas. Je préfère avoir plein de trucs à pas beaucoup et pouvoir tester plein de trucs et jouer plein.
Plutôt qu'avoir un truc à 90, tu conseillerais de mettre trois trucs à
35.
Ouais, puis
en plus, ça veut dire que tu vois le bonnet dont tu parlais tout à l'heure. En fait, ça va être toi. Et ça va être toi qui vas te confronter au truc. Et il y a un côté rigolo parce que du coup, tu peux te créer plein de choses en fait autour et tu peux vraiment jouer en fait ce qui va se passer. Et en fait, du coup, ton pilier, tu vas pouvoir le créer en confrontation avec ça, ouais. Tu vois.
Et surtout, l'autre chose, c'est qu'en fait, un personnage minimaxé dans Cthulhu, il y a des domaines où il va toujours réussir. Et dans un truc d'horreur, une partie d'horreur et de... Ouais, on va rester sur l'horreur, pas fantastique. Une partie de l'intérêt de la fiction tient sur la possibilité d'échouer, qui est importante, hein, parce que s'il n'y a pas d'échec, si quelqu'un a 90 en esquive...
Tu viens de tomber dans l'escalier sans le faire exprès.
Ouais, hein. Par exemple. Ouais. Pour moi, oui, alors Natacha, on peut reprendre pas parler de la scène, mais pour moi, une scène où quelqu'un est poursuivi par un monstre et qu'il meurt en tombant dans l'escalier, pour moi, c'est complètement valide.
Natacha.
Oui, pour moi aussi. En fait, ce que j'allais dire, c'est que ça marche dans les nouvelles de Lovecraft parce que ce sont des personnages qui ont la possibilité de prendre la fuite Et on l'a vu tout à l'heure, avec la, on l'a expliqué, hein. En fait, au final, le scénario de Cthulhu, de celui qui chuchotait dans les ténèbres, il tient en 20 minutes, puisque le moment où il est vraiment confronté à l'horreur, la première chose qu'il fait, c'est monter dans la voiture et partir. Ça, en tant que personnage de Cthulhu, tu ne peux pas le faire. Donc, si tu veux t'amuser un peu à Cthulhu, je suis désolée, mais en fait, il faut que tu aies des caractères qui permettent d'affronter l'horreur, quoi.
Alors, Pierre, ça fait longtemps que je te squeeze là. Tu t'as demandé la parole depuis longtemps. J'espère qu'on n'a pas changé de sujet entre temps. Si, peut-être.
Si, j'ai un peu oublié.
Ah, ah merde.
Et la fatigue m'envahit.
Ah merde, oui, parce qu'il est tard aussi quand on enregistre cette émission. Adrien,
je te réponds un peu troll pour Natacha. Mais heureusement, en Trail of Toulouse, il y a un système de motivation qui explique pourquoi ton personnage n'ira pas prendre la fuite.
Et bah, c'est très bien. Ça prouve que c'est un bon jeu.
Ouais. Moi, ces motivations, je les transmets notamment via des liens entre les personnages.
Le fait que ce soit des huis clos et qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre la fuite.
Tu vois, d'où le fait que ce soit des pré-tirés, c'est pas une anecdote, tu vois, dans tes préparations. Non, c'est hyper important, en fait.
Bien sûr. Ouais. L'autre élément dont tu parlais, c'était les plans.
Adrien.
Et les documents à donner aux joueurs, etc. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le temps, pour préparer des scénarios, j'en faisais beaucoup avant. De la musique, des engins, les fiches de perso, penser à toutes les caracs, aux situations, les plans, les machins, les documents à trouver. Et en fait, au fur et à mesure, je fais ça plus vite, on va dire plus efficace.
Et il délègue, du coup, il fait ça plus vite.
Je délègue, non, mais il y a ça en partie, ok. Mais le truc, c'est que par exemple, le plan, typiquement, de plus en plus, j'apprécie, moi, avoir un plan et ne pas en donner un aux joueurs. Parce que c'est rarement rarement diégétique que les personnages aient accès à un plan. Ils peuvent toujours se le tracer s'ils veulent, et moi j'ai absolument rien contre ça. Mais du coup, ça laisse tout le degré d'interprétation de quand on décrit les lieux à l'oral. La transcription en plan fait que savoir s'il y a un faux plafond, un double mur, un passage secret sont...
Un vagabond dimensionnel.
Voilà, sont moins évidents. Et donc moi, par contre, je tiens à voir mes plans parce que ça me permet d'avoir des notes, des idées un peu de l'architecture et je peux y cacher des éléments. Moi, sur mes plans, j'ai mes meubles, où est-ce qu'ils sont placés, des choses comme ça. Ça me permet déjà de voir le lieu et puis pour savoir où sont les passages secrets qu'emploient les migos, où est-ce qu'a pu se planquer quelqu'un. Ou alors, le lendemain matin, quand ils se réveillent, je peux leur décrire où sont les traînées de pas. Et eux, du coup, s'ils ont pensé à faire un plan, ils peuvent regarder, ça peut leur apprendre des choses. Donc, c'est un gros aspect pour moi de jeu. Les plans, enfin je kiffe les plans, hein, ça c'est vraiment génial. Et après, en termes de documents, tout ce qui va être lettres écrites ou documents trouvés, c'est beaucoup de boulot pour les préparer.
Ah bah ça c'est sûr.
C'est vraiment beaucoup de boulot, donc c'est un truc que j'ai tendance à faire moins en Cthulhu. Et donc j'ai tendance à les dire à l'oral.
C'est pour ça que quand tu t'inspires de faits historiques, tu peux retransmettre ça.
Oui et non, parce qu'en fait, l'autre problème quand tu t'inspires de faits historiques, c'est qu'il y a des documents qui vont être des vrais documents, et donc auxquels tu vas pouvoir dire « ouais, mais... » A priori, c'est pas un truc lié à l'enquête ou pas crucial parce que c'est un truc qui a vraiment eu lieu, tandis que le moment est prendre de la liberté. Et donc, t'as toute cette notion de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui est écrit par Romaric. Tu vois les différences de traitement si t'es pas un fan du Photoshop, ça se voit. Donc, moi, c'est le genre de choses que je cache en disant, ben voilà, tout est comme ça. Très souvent aussi, il y a des scénars où je prévois aucun nom pour plein de PNJ et même le grand méchant. Comme ça, j'improvise tous les noms dans la partie et tout le monde est traité à la même enseigne. Et donc, le méchant, il est défini par son métier ou où est-ce qu'il habite, mais son nom, c'est un truc que j'ai improvisé. Donc, il y a plein de choses que
Michel, le grand méchant.
Je sais que je sors de la préparation pour, moi, me laisser plus de souplesse pour mieux brouiller les pistes, si on reprend le vocabulaire d'Apocalypse World, brouiller les pistes. Et par contre, il y a quelques éléments que je peux donner là où le visuel est important. Typiquement, les œuvres d'art, là, c'était important, donc il y avait des visuels de prévu.
Bien.
C'est marrant que tu parles de ça parce que pendant que je préparais le scénario pendant tout le week-end, il y avait ce genre de questions qui s'étaient posées parce que je voulais vraiment vous faire des documents bien travaillés et tout.
C'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est compliqué, ça prend du temps. Rien que pour faire tout ce qui était essentiel dans le scénario, ça m'a pris les 3 jours où j'ai eu du temps.
Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les sites type tentacule.net et tu vois, c'est des sites internet qui compulsent en fait des scénarios de Cthulhu qui ont été faits par des fans, ont eu énormément d'importance. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, quand tes joueurs ils veulent jouer le soir même, c'est vachement pratique d'avoir les préparations des MJ qui t'ont précédé.
Ouais. Mais en fait, c'est un double piège. C'est que quand tu partages une préparation comme ça, moi, j'ai énormément de mal à la prendre en main.
Oui,
parce qu'en fait, tout a beau avoir été écrit
et
très propre, il n'empêche que le temps de lire les persos, c'est quoi l'histoire, les PNJ, tous les textes, en fait, à les lire, les différents embranchements, parce que souvent, c'est des scénarios qui sont pensés avec des... Ils peuvent aller là, ils vont trouver ça, etc. Donc, il faut avoir tout ce canevas dans la tête. C'est vachement compliqué, ça demande beaucoup de travail. Tandis qu'un scénar qui se présente sous la forme de un plan, des prêts tirés, une liste d'œuvres à trouver, c'est juste des photos, et... un document d'une demi-page où on met premier jour il se passe ça, deuxième jour il se passe ça, troisième jour il se passe ça, avec un incipit qui est écrit en une demi-page, t'as ton scénar qui tient en une page de document Word et le reste c'est de l'annexe quoi. Ouais.
C'est marrant, c'était en train de dire en fait le jeu de rôle c'est un loisir qui nous pousse, enfin c'est plus simple de créer que de consommer.
Ouais, dans certains cas, c'est plus simple de créer que de consommer, bien sûr. Marrant, si on rediscute de Vademecum, c'est aussi des retours qu'il peut y avoir et de sens aussi, en fait. Ouais. Plus t'as d'éléments à ingurgiter, plus ça demande un boulot considérable. Alors que quelques éléments lapidaires ou une discussion en amont avec la personne qui te le transmet sont beaucoup plus efficaces. L'écrit, c'est une manière de transmettre qui est précise, mais qui demande énormément de boulot au lecteur.
Et parfois aussi, t'es déçu. Hein.
Aussi.
Tu vas prendre trois plombes pour lire. Moi, je me souviens comme ça d'une campagne du commerce hein, américaine que j'avais lue en plus simili traduite parce qu'elle n'était pas traduite et tout. Je m'étais cassé le cul à la préparer et tout. Et puis, quand on l'a joué, en fait, elle était ultra décevante. Elle ne fonctionnait pas bien. Enfin, c'était, oh là là, c'était une grosse déception, quoi. T'imagines, j'avais bossé ça super longtemps. Oh, ça avait été un crève-cœur, quoi.
Sans parler de problèmes de transmission, parce que, comme on dit souvent, chacun voit dans les choses qu'il veut y voir. Et des fois, tu as des textes un peu ambigus.
Ouais, je suis assez d'accord sur ce point, ouais.
Il y avait, dans ce que j'avais pris pour le Cthulhu Gunshow, j'avais un supplément qui, en fait, prend le contexte de Cthulhu dans les contextes des vieux films d'horreur des années 30, vous savez, les premiers King Kong, les trucs comme ça et tout. J'essayais de le lire, mais ça se transmettait super difficilement. Les scénarios étaient écrits d'une manière... Du coup, le concept me rendait fou, mais l'appliquer, c'était infernal, quoi.
Alors ça, c'était un autre sujet que je voulais aborder, mais Fly, tu voulais ajouter quelque chose ? Ok. Non, c'est
un autre truc, mais qu'on verra après.
Ok, d'accord. Moi, juste un point, c'est de dire est-ce que. Enfin, non, mais ça va être trop long. Vas-y, Fly, change. Ça
en fait, à vous écouter et à réfléchir à ce que je fais, je me rends compte de quelque chose, c'est que le but n'est pas vraiment de faire vraiment peur, en fait, à la personne, enfin, à la table. C'est de déclencher un petit frisson. Et je pense que c'est quand même une grosse différence. C'est-à-dire, le but n'est pas de traumatiser la personne autour de la table.
Attention, là on parle de préparation de partie. Si je te parle de mes techniques de maîtrise maintenant et de la façon dont je sonorise, dont je tourne... Attention, parce qu'il ne faut pas confondre ce qu'on fait pendant la préparation et ce qu'on va faire pendant le jeu. C'est une game, je peux te dire que le but, c'est de faire peur.
On avait fait une partie avec Mathieu Mine. On a fait une partie de Cthulhu avec lui où la thématique c'était justement est-ce qu'il arrivera à nous faire peur.
Alors c'était sur le podcast pour la convergence, ouais, mais la c'était convergence. Pas explicitement du Cthulhu hein, selon.
Si c'était du Cthulhu. Enfin.
C'était pas, vous avez pas dit on va jouer.
Non,
à
il nous a Cthulhu, pas dit que ça serait l'appel du Cthulhu, mais bon, on s'en est rendu compte au bout d'un moment. Et tout le mécanisme pour faire peur. C'était pas, y a rien qui tenait au scénario, tout tenait à comment est amené le scénario,
voilà,
comment
les
techniques de maîtrise.
C'est plus de la prépa, enfin c'est de la préparation, de la scénographie,
oui.
Presque.
Alors, la distinction était importante à faire en début de podcast.
Il peut y avoir des choses qui viennent via la préparation. Moi, il y a des sujets malaisants que je peux évoquer dans des préparations, et alors ça va pas faire peur, mais je peux mettre très mal à l'aise des joueurs par certaines thématiques en fait. Et même moi, hein, des fois, je me mets super mal à l'aise moi-même.
Pierre, et c'est une très bonne manière pour faire peur à ses joueurs que d'avoir peur soi-même d'ailleurs. Pierre.
Après, sur le truc de la peur dans le jeu de rôle, j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose qu'on peut totalement amener. Pour moi, pour amener la peur dans le jeu de rôle, il y a deux manières. Soit trahir un peu le contrat social en essayant de faire peur par des éléments extra-diégétiques au cours de la partie avec ses joueurs, ou alors il y a quelque chose qui tient un peu du jeu en performance où ce sera un effort collectif pour faire peur à la table. Et j'ai qu'un seul scénar de Cthulhu où il y avait une ambiance de peur, mais c'est parce que tous les efforts des joueurs qui ont acheté ça. Donc,
mais il y a quelque chose qui me surprend beaucoup avec la peur, c'est qu'elle peut aussi survenir à un moment où tu t'y attends pas du tout.
Oui,
et là, moi j'ai eu peur dans des scénars qui n'ont rien à voir avec Cthulhu. Et tu vois, enfin, parfois, tu te surprends d'un coup, tu te retrouves.
Mais je pense que même si tu peux y mettre le paquet, tu peux arriver au stade du malaise, mais de la peur, ça me paraît. Ouais,
la peur, il faut vraiment une rupture de contrat social, en fait.
Oui, genre.
Ouais, le scénar où on a réussi à faire peur à des joueurs de Cthulhu.
Tu vas nous parler de ton GN, simili GN, là où vous étiez.
Des joueurs sont allés jouer dans la forêt à Cthulhu.
Là, ouais,
et nous, on a débarqué en pleine nuit, le visage couvert de sang autour d'eux, enfin, de faux sang, hein. Et un des potes avait eu on voulait juste se faire passer genre pour des zombies qui faisaient des bruits dans les bois. Et en fait, il y a un des potes qui a eu l'idée de dire il y a machin, il s'est fait renverser par une voiture et tout. Et là, il y a eu un élément de bad, mais alors absolu.
Non, je machin, je pense, c'est bien à qui je pense.
C'est possible, non, okay. Je sais plus.
Ça m'aurait pas du tout plu. Hein.
Ah bah non, ça, en fait, ça a tué la partie. Hein.
Franchement, c'est
je connais cette
double,
histoire à chaque fois que je l'entends raconter, je me dis, voilà, mais c'est pas pareil.
Ça a tué la partie, quoi. Ça a vraiment tué la partie. Et aussi, nous qui vions les zombies comme des cons dans les bois, enfin, on s'amusait bien, on faisait craquer des branches et tout, mais quand tu reviens, tu fais.
C'est carrément comment dire, c'est tellement crédible que
oui, à fond, ouais.
Enfin, comment dire, c'est du mensonge en fait, tu vois. C'est même plus du jeu, quoi. C'est un vrai mensonge et enfin bon, c'est
on est dans le cadre du dangereux, quoi.
Ah là, vraiment, pour le coup,
c'est sûr.
Après, tu peux péter le contrat social de manière.
C'est pas du jeu de rôle, ça. C'est pas du jeu.
Non, c'est pas du jeu de rôle, bien sûr. Mais c'est ce que je disais quand je disais, on pète le contrat social. Là, c'était à deux niveaux. Tu vois, il y avait un premier niveau qui était gentillé entre guillemets. Déjà, ça aurait pu. Enfin, tu sais pas comment les gens peuvent réagir à la situation de. On fait des bruits autour d'eux. On va se rapprocher. Et puis après, l'étape d'après, qui était, elle, beaucoup plus malsaine. Quoi.
Quand je pensais au truc de baser le contrat social, je pensais à des trucs du genre la technique, tu vois, de l'enceinte Bluetooth que tu places quelque part dans la pièce cachée et que tu envoies un gros son qui fait bien flipper d'un seul coup, tu vois.
J'y avais jamais pensé.
Ah bah voilà, voici une technique. voici une technique, appliquez-la.
Ah, mais il avait le truc où, qui m'a tellement fait flipper au début quand je jouais avec lui, où il fait un bruit régulier, puis à un moment, il casse le bruit, il fait ah, et là, moi je saute sur saute.
Les hurlements, ça marche bien, ça.
Mais encore une fois, on n'est pas tellement dans le cadre de la peur, mais plus du sursaut aussi.
Oui, c'est plus des jumpers, en fait.
Des jumpers. Merci, ouais. Natacha, c'était le mot que je cherchais, les jumpers. Voilà, les jumpers, ça fonctionne
en fait,
très bien.
Le truc, c'est que le jumper, il a un double effet. C'est sur le coup, et après, je t'assure, les joueurs, ils ont l'attaque qui commence, ouais, et la scène, ils la vivent différemment.
Mais vraiment, je pense que la peur dans le jeu de rôle tient aussi d'un certain effort collectif, limite qui tient de la performance, quoi. Du joueur en performance.
Tu m'as parlé aussi, Flavie, t'en as pas parlé dans les micros cette saison, mais je trouve ça intéressant d'en reparler là. C'est de la partie que vous avez fait l'été dernier avec le Guy sur le Baron Munchausen.
Ah oui, ouais.
Qui est un cas.
Alors, il faut savoir qu'après, le Baron Munchausen et ceux qui ont tenu le podcast savent dans quel état j'étais, dans la mesure où j'étais la dernière à passer d'un jeu à boire où nous étions nombreux. Et après, en fait, pendant le podcast, je dis, je suis sûre qu'il y a une façon de jouer à ce jeu qui peut être horrifique en racontant des jeux horrifiques. Et Adrien, Aurélien et moi sommes allés dans un coin sombre dans le dehors pour se raconter des histoires à la Baron Munchausen. Et j'ai eu peur, en fait. Aurélien, il a raconté une histoire, mais j'ai eu trop les boules. Et c'était une histoire,
donc
en fait...
On peut avoir peur,
ce qui,
en jeu de rôle, tu vois.
Ce qui faisait peur dans l'histoire d'Aurélien, c'est qu'en fait, elle se basait sur une histoire vraie qu'il a entendue. Et ça, depuis que je suis toute petite, ça marche. C'est « Ah bah j'ai une copine
d'où
à moi qui a vécu ça ».
D'où le fait que tu t'inspires d'histoires vraies dans tes préparations.
De contes et de choses comme ça, et de films et de choses comme ça.
Ou
mais
de
oui.
quelque chose.
De toute façon, il y a beaucoup de films d'horreur qui reposent sur, à un moment donné, des personnages qui disent « Tu te rappelles ou cette histoire-là, où j'ai entendu dire
ou
que... »
Ou ce film repose sur des
faits
réels.
C'est une technique de marketing basée sur des faits réels. C'est écrit sur toutes les affiches des trucs
regarde Blair Witch.
Paranormal Activity, je sais pas quoi.
Blair Witch est quand même un film où ils ont fait croire avec le site internet que c'était une histoire vraie, en fait.
Trop fort.
Alors là, ils font croire de façon externe, mais il y a beaucoup de films où c'est... en interne, quand l'histoire commence et le film est raconté par des personnages, ou alors on raconte que et ça amorce un peu l'histoire, il y a des choses comme ça.
Natacha.
Ça remonte à il y a
plus d'un
siècle, parce que les Penny Dreadful à la fin du 19e siècle en Angleterre, c'était une technique de vente, hein, de marquer que c'était basé sur des faits réels.
Mais
oui, et donc du coup,
c'est
des histoires un peu, horrifiques comme ça, avec des histoires de fantômes, soit des meurtres un peu à la détective, le magazine détective, qui était vendu pour un penny, donc penny, voilà, et dreadful, horrible.
Ah, deux penny dreadful.
Deux penny dreadful.
Ok. Et pour la petite anecdote, c'était le truc que. Les conservateurs condamnés qui rendaient les enfants meurtriers, etc. Tu vois, il y avait la pré-Midi Rise Humain.
C'était les comics de 1800, quoi. Enfin.
Ah oui, d'accord, il y a eu des scandales liés à ça. Ouais, est-ce que c'est bon pour les mœurs qu'on vende des Penny Dreadful?
Tu vois, c'était les Penny Dreadful après les comics.
C'était le JDR de l'époque, quoi.
Ouais, c'était le.
Ok, très intéressant. Merci, Adrien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant la conclusion?
Non, j'ai déjà dit pas mal de choses. enfin voilà, en gros, on a chacun notre manière de faire. Tous, j'ai quand même l'impression qu'on part d'un. Enfin, après, on crée jamais au global, on crée d'une étincelle qui croit, qui comme ouais. une sorte de. En fait, comme une araignée, c'est-à-dire on crée le petit centre et puis on crée notre toile autour.
Ce que j'en ai surtout retenu, c'est qu'il y a l'air d'avoir tout un stock d'outils communs qu'on a tous plus ou moins utilisé à un moment pour trouver les bons.
Ouais. Et aussi, enfin moi, j'aime bien penser un peu hors de la feuille en fait. Mmh. Jouer avec, ben, je peux découper la feuille. Je peux. Une chose que je faisais aussi régulièrement, que je sais plus avec quoi, quel jeu ça m'était venu, c'est le fait de temps en temps demander au joueur, déchire un morceau de ta feuille, quoi. Et en fait, jouer avec le matériel, jouer avec la position dans la pièce, jouer avec le fait de sortir de la pièce pour parler aux gens. En fait, les techniques de maîtrise peuvent aussi être l'inspiration de scénarios. Par exemple, jouer une double table avec deux tables qui jouent en parallèle, qui ouais. peuvent communiquer par des médias limités, des choses comme ça.
Combien de scénarios de Cthulhu t'as écrit, à ton avis ? À vue de pif.
Hein. À vue de pif, une quarantaine, un truc
ouais.
comme ça.
Ouais, ouais. J'en suis à peu près au même stade, je pense, à peu facile. Près. Et qu'est-ce que t'en penses, en fait ? Enfin, moi, un peu moins. Je pense que je suis plus autour de 25-30. Mais et maintenant, en fait, tu continues à prendre du plaisir à en écrire, tout ça ?
Ah ouais.
Moi, j'en peux plus, en fait.
Mais en fait, le
moi,
truc, c'est
que plus.
Je...
Par là, exemple, tu vois, maintenant, en fait, on propose du Cthulhu à un fly. En ce moment, vous avez remarqué avec Cédric, maintenant, quand Cédric vient, on ne fait plus le Cthulhu traditionnel. Avant, on a, pendant très longtemps, en fait, chaque fois
que
Cédric venait à la barre,
en
tant que meneur, en fait, même...
Ah, parce qu'avant, c'était toi le meneur. Mais maintenant, si on te propose en tant que joueur...
Je jouerai sans doute, mais je préfère les campagnes. Honnêtement, je D'accord. préfère les campagnes au one shot. Maintenant, j'aime vraiment la grande okay. campagne. J'ai adoré les 5 supplices, enfin, ce qu'on a vécu ensemble aux 5 supplices. Le truc, en fait, c'est que moi, j'estime que j'en ai un peu fait le tour. Je m'en suis D'accord. lassé maintenant. Tu
Là,
vois.
Alors, moi, ce qui se passe, c'est que ça fait aussi quelques années où le rythme a énormément ralenti. C'est-à-dire, j'ai eu 4 ans où j'en ai fait. Pas un par mois, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Enfin...
Avec Cédric et Thomas, à chaque fois qu'ils venaient à la barreau tous les deux, on faisait...
D'ailleurs, Thomas et moi, on est très déçus que tu le fasses.
Le Cthulhu traditionnel. Voilà.
Mais depuis 4-5 ans, j'en fais un par an, quoi.
J'ai l'impression d'avoir épuisé mes huis clos. J'avais retrouvé un livre formidable sur les îles abandonnées. Il y avait plein de choses dans les îles abandonnées, il y a des trucs incroyables. J'avais réussi à retrouver comme ça un stock de scénarios de Cthulhu grâce à ce livre. Axolot aussi avait été une bonne source d'inspiration pour certaines histoires, mais je sais pas, j'en peux plus
mais
du scénario de Cthulhu. Quoi.
Moi, si tu veux, ce podcast, je l'adresse à ceux qui commencent, quoi. Enfin,
oui, bien sûr, avec là, on a fait un bon stock d'outils.
Parce que c'est... Je sais même pas si c'est utile, ce podcast, pour les gens qui commencent. Je pense que le
si,
mieux...
Bah,
alors... Oui et non, je sais pas. Parce qu'en fait, chacun découvre Cthulhu à sa façon et va créer ses propres recettes. Je suis pas sûr qu'écouter les recettes de quelqu'un, ça ouvre des champs des possibles. Ça risque au contraire de formater, peut-être.
Ouais,
je sais pas.
Il y a pas mal d'éléments entre les aides de jeu, les bacs à sable dans des milieux fermés.
J'ai hâte de lire les commentaires, de voir si les gens vont nous dire oh, je fais exactement pareil comme ça
ou
nous est arrivé.
Ouais.
Ou alors c'est à l'inverse, dire bah non, mais moi je fais pas du tout comme ça. Et du coup, de voir les méthodes qui sont employées. Parce que s'ils font pas comme ça, j'ai vraiment envie de voir. Et ben moi, je m'inspire de ma grand-mère, Mémé Roro.
Je suis curieux aussi de savoir. je crois que tu comptais en parler à un moment donné et que tu l'as pas fait parce que ça risquait de prendre trop de temps, mais on peut juste l'évoquer très rapidement. Je suis curieux de savoir combien de gens jouent à du Cthulhu que via des scénarios préécrits.
Ouais. Moi aussi, ça je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a pas beaucoup de gens en fait qui jouent exactement comme nous, là, en one shot ouais. et tout ça Quelle est la pratique des gens qui jouent avec Cthulhu ? L'autre question non, que je voulais aborder, mais qui allait être trop longue, c'est est-ce que vous préparez en fait vos scénarios one-shot comme vous préparez vos campagnes commerce, par exemple ? Est-ce que tu trouves que pour les 5 supplices, tu t'es inspiré en fait de tes méthodes de création, tu vois, personnelles ?
Non,
pas
non,
du
non.
tout. Voilà.
Non, non.
Ok. Moi, par exemple...
Je suis incapable de suivre une campagne. Je dois toujours, il faut toujours que je la torde un peu, etc. Je suis incapable de la suivre.
On verra.
Je pense que c'est un cas pour beaucoup de gens. Personne ne peut suivre stricto sensu.
Ouais, ok.
Après, qu'est-ce qu'une campagne ? Est-ce que c'est pas plutôt une succession de scènes, un scénario que t'es incapable de suivre ? Une campagne, c'est pas forcément
quelque
une succession
chose que tu dois t'approprier.
Pas forcément. Mmh. Et donc justement, c'est ça aussi, c'est que.
Et puis moi, je suis assez effacée en fait. Encore une fois, en maître de jeu. Donc moi, ce qui me tripe, c'est de regarder mon groupe. Du coup, il faut que la campagne elle corresponde à ma masterisation, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, quand je masterise, je suis pas vraiment maître de jeu, en fait. Je suis vraiment une sorte de joueur autour de la table. J'ai pas, enfin. Mmh.
Mais en tout cas, merci Adrien de nous avoir proposé ce. Ah, Pierre, tu voulais.
Ouais, mais c'est plutôt de l'ordre du comique. Tout à l'heure, il y a Natacha et Adrien qui sont un peu décalés. Du coup, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un sur le canapé. J'ai fait, mais depuis combien de temps il est là? Est-ce qu'il est encore chaud?
Oui, c'est
celui qui. Celui qui dormait dans les ténèbres.
Celui qui dormait dans les ténèbres.
Natacha a eu peur.
Il a réussi.
T'as brisé le contrat social, lui.
Et ben voilà. Voilà un podcast qui finit en jumper. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien.